D'autant plus que le reggae, c'est vraiment la basse. C'est la basse qui s'affirme. Elle prend de plus en plus de place, elle commence à groover, mais d'une manière plus écrasée. Lipéry, qui est un producteur de génie, disait « Le reggae, c'est comme si t'avais marché dans la colle. » Dans la basse de reggae, c'est, je trouve l'image elle est très parlante. Ah, okay. On a plus mis en avant quand même One Love que Burning and Looting. Ouais.
Ouais, okay.
Burning and Looting qui veut dire « Ce soir, on va tout brûler, on va tout piller.
Ouais. »
Tu vois,
c'est vrai qu'on voit, nous on a une image de Bob Marley qui est plutôt.
Bob Marley, t'imagines, lui, métis, donc ultra rejeté dans sa jeunesse. Il y a un moment, il était quasiment à la rue. Bah, son surnom, c'est Tuff Gong. Tuff Gong, ça veut dire quand je t'en colle une, t'es sonné.
Ouais.
C'est pas un coup de bisou qu'on se fait appeler comme ça dans la rue, tu vois. On torture les pistes. Tac, on joue avec les pistes, avec les échos, les reverbs, les delays, tout ce qu'on a sur la console. On joue avec les pistes et on a refait un nouveau morceau. Le dub accouche de tout ça, drum and bass, tout ça, c'est les gosses du reggae.
C'est fou que la Jamaïque ait été au cœur de ça.
C'est fou qu'une aussi petite île ait tu sais, que ça soit Marcus Garvey, Bob Marley, Usain Bolt, ou... c'est une île de 3 millions d'habitants.
Ouais, c'est ouf. Alors, l'influence en fait.
Le rayonnement. Tu vas voir, tu peux l'attraper. C'est vrai. Parce que t'as Bamboclat. T'as Bloodclat et t'as Bombrasclat. Alors ça, c'est celui de luxe.
Et oui, vous l'avez compris, on parle de reggae, mais ça reste dans le tempo, même si l'intro change d'Az. Épisode 79.
Je suis complètement désarçonné.
C'est parti. Bienvenue dans DLT.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors en fait, tu vois, normalement, les gens qui nous écoutent et nous regardent, ils ont dû avoir, si tout se passe bien, en intro, un tout petit medley, c'est un genre, tu vois, des petits extraits rapidos pour donner envie.
Ah, il y a un pré-roll, genre.
Ouais, tu vois, on a compris que genre sur YouTube, c'est un peu compliqué, les gens, les intros longues et tout, ils kiffent pas trop. Alors, on les tease, tu vois, on dit, regarde, on va parler de ça, ça va être stylé, et puis ensuite, on fait l'intro.
Écoute, j'aurais aimé être au courant de ce changement éditorial, mais très bien, très bien.
Oui, bon, en vrai, on est dans le podcast des passionnés de musique d'Az.
Comme toutes les deux semaines.
Exactement, un mercredi sur deux, on se retrouve, on parle à chaque fois avec des invités absolument passionnants. Et cette semaine, on est avec Jahil.
Ah là là,
ça va ?
Ça va quoi ?
Mais oui, très
j'ai
bien.
J'ai la pression là.
Mais non, tout va bien, tout va bien. Mais est-ce que tu connais un peu l'émission ?
Ah, j'adore.
C'est vrai.
Je suis abonné, moi j'écoute et tout ça.
Incroyable.
Quelle semaine.
Bon, Jahil. Faut que je te présente. Je disais, alors moi ils ont compris avec l'intro et tout. J'essaie de m'adapter à cette nouvelle intro. Qu'on va parler de reggae, puisque tu es artiste, auteur, interprète. Mm-hmm. Tu fais toi-même du reggae.
Ouais.
Tu as 3 albums à ton actif, dont le tout dernier, celui que montre Daz, c'est sorti en mai dernier, French Kiss.
Bien sûr.
Yeah, c'est moi, c'est la preuve.
C'est toi, c'est
la
c'est
preuve
vrai,
en image.
Vrai.
On le reconnaît.
Ça fait combien d'années que t'es dans ce game du reggae?
Et là, je sais que la première fois que j'ai pris un micro, c'était en 95.
Ouais.
C'est tout ce que je sais. Mais rap et reggae en même temps un peu.
Ouais.
Enfin, d'abord rap, mais très vite rap et reggae.
On l'a dit, à la fois artiste, c'est un milieu dans lequel tu évolues depuis longtemps, et en parallèle de ça, journaliste aussi.
Yes.
C'est-à-dire que tu parles de reggae, tu interviews des acteurs du reggae, etc., depuis de nombreuses années aussi.
Mm-hmm. Reggae et pas que.
Et pas que, c'est vrai, aussi très rap, etc. Bah attends, il y a quand même dans ton CV d'interview.
C'est un truc de ouf.
T'as quelques trucs épinglés là, plutôt stylés. J'en cite quelques-uns. Jacob Desvarieux, DJ Première, KRS-One, Sean Couty, Shaggy, Pete Rock, Toots and the Maytals.
Ouais.
M.O.P., Tiken Jaffa Coli, Slum Village, Capleton.
Bah, il y a tout le monde là, quand même.
Piniman. J'arrive plus à me souvenir à force tellement. Là, il y a 2 semaines, on a fait Kabaka Pyramid et Razel.
Ok.
Une Spectadec, Rayquan. On en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en a fait beaucoup, ouais.
Et pour le côté artiste, des featuring aussi. Parce que là, donc, on parlait d'interview.
Ça fait plaisir.
Avec General Levy, Queen Omega, Gappy Ranks.
Ouais.
Tu t'es retrouvé en studio avec des gens comme Beanie Man, Tony Allen. Ça devait être stylé, ça, Tony Allen.
Truc de ouf.
Ouais, c'est la légende. On en parlait encore dans le dernier épisode avec Céron qui a enregistré avec Tony Allen.
Ah ouais?
Ouais. Absolument, ils ont fait un morceau ensemble.
J'ai vu que vous aviez fait passer Céron.
Ouais, ouais.
Et maman, je passe après Céron. mais j'ai pas encore écouté. Ah, il a bossé avec Tony Allen.
Ouais, ouais.
Incroyable.
Absolument.
Ouais, on a
absolument.
Fait tout un morceau même.
Ils ont fait tout un morceau ensemble, ouais. Absolument.
Oh, super.
Et non, Céron, carrière étonnante en réalité. Tu regarderas l'épisode, c'est vrai qu'il est sorti aujourd'hui l'épisode, donc t'as pas pu encore le voir, mais personnage étonnant et carrière absolument folle, effectivement.
Ah bah, carrière pas dingue.
Bon oui, plein d'autres, La Dame Blanche aussi, ouais. Aura Sandy, Paco Seri. Bon.
La Dame Blanche qui est sur...
Qui est sur le dernier album aussi, French Kiss.
Qui est le visage.
Ah, qui est le visage.
De l'album.
Ah,
elle n'est pas créditée.
Non.
Très bien. C'était un arrangement à la cubaine.
Bon, et en plus, sur cet album, il y a quand même un truc absolument dingue, parce que, autre connexion avec un épisode de DLT de cette saison, on avait parlé avec Wally Badarou de Sly and Robbie.
Yes.
Sly and Robbie, qui sont les légendes absolues de la musique jamaïcaine.
Compass Point
qui
aussi.
Qui étaient chez Compass Point avec Wally. Et en fait, il se trouve que tu les as rencontrés. Ça s'est bien passé. Là-bas, c'était pour une interview. Et ils t'ont dit, mais mon gars, tu fais de la musique. Tu veux choper des riddims? Tu veux piocher dans notre catalogue? Vas-y.
Ouais.
Et donc, sur French Kiss, on trouve plein d'instrus, en fait, de Sly and Robbie.
Toutes les instrus.
C'est écrit dessus, hein.
C'est absolument tous les tracks.
All instrumentals.
En fait, ouais, ils m'ont laissé piocher dans une partie de leur catalogue. Ouais. Bah alors, moi, je t'avoue, je croyais que c'était du flan. Sur le coup, je me suis dit, c'est dans l'euphorie, l'enjaillement et tout. Et puis, non, leur manager, Game Bougard, qui est français.
Ok.
Il est passé en bécane chez moi avec un disque dur et il y avait encore j'ai choisi des trucs mais il y avait des collabs qu'ils ont fait avec Bernie Warhol de Parliament
Claviériste complètement fou,
des instrus de Peter Tosh qu'ils avaient refait à l'identique avec la même équipe des trucs de malade quoi.
Bon voilà donc French Kiss avec Sly and Robbie et puis French Kiss qui fait suite à en 2008 il y avait eu une époque formidable puis 2014 Panam Skank. Et puis, en plus de tout ça, parce que t'as plein d'activités en réalité, tu bosses aussi en tant que régisseur.
Ouais.
Et je trouve que c'est intéressant, en plus de belles institutions, genre Grand Palais, etc.
Grand Palais, Cité de l'Architecture, Théâtre du Châtelet, Musée des Arts Décoratifs. Après, j'ai déjà bossé dans d'autres lieux incroyables.
C'était beau lieu, tout ça. Hein.
Ouais, bah en fait, j'ai commencé l'événementiel. Le mec qui était mon coproducteur, Dada, Big up à toi, mon Dada. un jour, on faisait pas une époque formidable, Panam Skank, ensemble. Un jour, il m'appelle, il me dit, tu peux venir au studio demain? J'ai dit, non, je bosse. Il dit, tu fais quoi? Je dis, je ponce des avions. Je ponçais vraiment des avions au Bourget.
C'était ton taf?
Il me dit, tu fais quoi? Je dis, je ponce des avions. Il dit, vas-y, tu sais quoi? Passe 53 Avenue des Terroirs de France, mercredi, on va te trouver un taf un peu plus humain. Et là, je suis devenu agent de sécurité des arts forains. Okay. Mais effectivement, c'était un lieu vachement plus cool pour bosser, quoi. C'est joli là-bas. Et puis, là-bas, tu peux avoir des tournages de Woody Allen, des concerts de George Ben ou de plein d'artistes. Bon, des soirées corpo aussi. Et je suis rentré dans l'événementiel comme ça. Et de fil en aiguille, ouais, je suis devenu régisseur. J'ai été recruté au Grand Palais le jour où ma fille, elle est née.
Oh.
Je faisais l'entretien et tout. Ma meuf m'envoyait un texto. Je perds les os. Des questions?
Gardez la face.
Des questions? Ben, je vous dis à lundi. Je m'avale comme ça à la maternité.
Non, mais en plus, c'est intéressant ce côté. Donc, tu as des connaissances techniques aussi en tant que régisseur. Alors, c'est pas toujours lié à la musique, mais ça peut faire partie aussi de la vie de musicien. C'est d'avoir à côté un métier technique pour alimenter un peu une espèce d'écosystème. On fait des trucs à droite, à gauche et tout.
Bah, déjà, ça me permet d'être intermittent.
Ouais.
Donc
ça, c'est bien, ça.
Voilà, je peux être intermittent et joindre l'utile à l'agréable. Tu vois, moi, j'ai jamais eu de grosse prod derrière moi. Mmh. Moi, je suis un mec, je fais de la musique parce que de toute façon, c'est de la drogue. Mmh. Et parce que je suis, ça me provoque des aventures. Mmh. Le but, c'est d'avoir une vie bien remplie, quoi. Mmh. C'est ce que je me dis. Je suis un peu boulimique, donc. En même temps, j'ai des gosses, j'ai des factures à payer. Si je compte que sur les concerts, il y a des mois où ça pourrait. Il y a des mois où ça pourrait beaucoup moins. Donc du coup, ouais, je jongle entre les deux, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est un peu, faut être inventif, quoi, avec ton planning.
Parce que du coup, t'es full indé, il y a pas de, pas de maison de disque, y a rien derrière, aucun deal.
Non. Je n'ai pas tellement tapé chez eux, ils n'ont pas tellement tapé chez moi. Tout simplement.
Je pense que on va l'évoquer justement.
Ouais, ce qu'on va faire en fait, c'est on va avoir une discussion, on va faire trois parties comme d'habitude. On va commencer par parler un peu de reggae de manière générale parce que c'est un truc qu'on n'a encore jamais fait dans cette émission. On a typiquement le P-Funk, tu parlais de Bernie Worrell. On a fait un épisode spécifique sur le P-Funk.
Ouais, avec Musul.
Et avec Musul, absolument, sur Parliament Funkadelic. On a fait un épisode sur le reggaeton évidemment qui était absolument passionnant.
Ouais.
Et on a fait un épisode sur le R&B contemporain, notamment francophone. Bref, on s'arrête sur des genres musicaux. Vraiment, on l'a jamais fait sur le reggae, donc ça va être l'occasion, toi qui connais quand même très bien ce genre, cette esthétique et le milieu aussi.
Commence à connaître deux trois trucs dessus. Ouais.
On va en parler dans les deux premières parties, à la fois parler des bases du reggae un peu, s'écouter des morceaux, d'où ça vient,
qu'est-ce que c'est,
qu'est-ce que ça véhicule aussi. Peut-être une deuxième partie sur le reggae en France, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une vraie scène française, quand est-ce qu'elle débarque, quels sont les grands acteurs du reggae français, ça se pense, ça peut être un truc intéressant. Puis plein d'autres trucs, je sais que dans le milieu, on en parle tout le temps de genre de trucs, mais tu sais, le rapport à la langue, est-ce qu'il faut chanter en français, est-ce qu'il faut s'inspirer des Jamaïcains,
il faut faire les deux.
Ouais, je suis typiquement le mec qui fait chier sur ces débats.
Ah bah sur French Kiss, il y a les deux d'ailleurs, tu chantes aussi bien en anglais qu'en français.
Et j'adore emmerder ces débats.
Ouais. Et puis dernière partie, on parlera un petit peu aussi justement de comment chez toi ces différents métiers entre guillemets, journaliste, artiste, régisseur, ils peuvent se nourrir potentiellement et tout, ouais, qu'est-ce que ça peut apporter, et parler de la vie de musicien, parce que c'est aussi une vie de musicien quoi, de faire plein de trucs différents.
Carrément.
On commence avec la première partie.
Allez,
toi,
c'est parti.
Toi Daz, le reggae, tu connais un peu ou moi j'avoue je suis globalement inculte en reggae.
Ouais, je regarde ça très très loin.
Ouais.
Très très loin. Moi je suis tombé dans le peura assez vite, et c'est vrai que je suis resté dans les genres qui gravitaient autour du rap. Et comme le rap samplait beaucoup, la soul, etc., on se retrouvait dans...
Daz, on va pas faire semblant. On s'est connus il y a longtemps.
C'est vrai qu'on l'a pas précisé. Vous étiez au lycée ensemble.
Ouais. C'est incroyable. Lycée, ensemble. Ça
incroyable,
bien Daz sûr.
Avec chemise à carreaux avec un bouton.
C'était ma vie de cholo.
J'ai des poses de player.
Globalement, le reggae, ce qu'à peu près tout le monde sait, c'est que ça naît en Jamaïque.
Ouais.
Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est l'espèce de filiation qui peut exister. C'est-à-dire qu'une musique ne sort jamais de nulle part. Est-ce qu'il y a des espèces de prémices de reggae? Comment ça arrive?
Le premier sound system réputé, c'est...
C'est quoi un sound system d'ailleurs?
Un sound system, c'est simple. C'est un endroit où on joue de la musique sur des disques, sur une sono amplifiée. Ouais. De base, c'est ça. Et pour les Jamaïcains qui étaient, à l'époque, ce n'était même pas indépendant, mais c'était un pays, c'était une colonie plutôt pauvre. C'était plus facile d'organiser des sound systems que des concerts, en fait. Donc, dès les années 50, t'as un sound system qui s'appelle Tom the Great Sebastian.
Ok. C'est aussi le terme qu'on peut utiliser pour qualifier des gens qui tournent ou...
Bien sûr. Bien sûr.
C'est pas seulement l'aspect technique sound system, genre il y a la sono et tout, c'est aussi l'événement lui-même.
Parce qu'il y a tout un truc qui s'est fédéré, quoi. Je veux dire, quand tu vas en son, tu dis, je vais dans une danse. T'appelles ça une danse, tu vois. Et lui, il était précurseur, et on parle pas assez du rôle des Chinois dans la musique jamaïcaine, les Sino-Jamaïcains.
Okay.
Tom the Great Sebastian, c'en était un. Tu vois, t'as le jukebox derrière.
Ouais.
Ben, les Chinois, ça va un peu avec le cliché des Chinois qui sont commerçants, mais les premiers à faire du commerce de disques et mettre des jukebox et des machines à sous dans les bars, c'est les Chinois.
En Jamaïque.
Ah. Et c'est marrant, quasiment tous les premiers labels de reggae ont eu un Chinois soit à sa tête, soit au comptoir, soit... Tu vois ? Même aujourd'hui, VP, le plus gros distributeur de reggae, c'est des Sino-Jamaïcains. Mais la différence avec d'autres communautés chinoises dans d'autres pays, c'est qu'ils sont très vite métissés. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait ça que par calcul pécunier. Ils ont fait ça parce qu'ils aimaient la culture. Ils sont très très vite métissés, quoi. Donc on retrouve beaucoup les Chinois, c'est marrant. Et à l'époque, ils jouaient beaucoup de rhythm and blues. Parce que c'est plus facile d'importer les disques de la Nouvelle-Orléans, c'est en face. C'est-à-dire que l'histoire de la musique caribéenne au sens large, elle se fait. C'est pas des frontières comme chez nous, les îles caribéennes. Donc dans toutes les musiques caribéennes, tu retrouves un peu des autres. Tu vois, dans la salsa, dans le compas, tu retrouves la même clave que la salsa. Et donc, au début, la musique jamaïcaine, c'est le mento. Le mento qui est un cousin du calypso, on va dire.
Donc c'est des musiques qui naissent en Jamaïque.
Qui naissent totalement en Jamaïque. C'est vraiment des musiques endémiques à la Jamaïque.
Et qui esthétiquement, parce que le calypso, est-ce qu'on peut s'écouter un exemple?
T'avais des gars qui jouaient du banjo, de la rumba box. C'était des textes des fois un peu grivois, un peu festifs, ou des fois des textes qui peuvent rappeler un peu comme le guoka en Guadeloupe, des trucs avec, tu sais, des histoires avec des petites morales derrière.
C'est un exemple de morceau.
On pourrait s'écouter Louis Bennett, Bongoman.
Très bien. Là, on est dans le calypso.
On est dans le mento.
On est dans le mento.
Alors celui-là, il est un peu entre rhythm and blues, mento, calypso, mais choisis Louis Bennett, c'est pas pour rien.
Allez, on s'écoute ça. Bongoman.
Ouais. Hey, t'entends quand même l'accent, le flow jamaïcain déjà, tu vois.
Ah, you On est sur quelle année là?
1950, tu avais mis.
Ouais, c'est 50, ouais. 1950. Tu sens, bon, la grosse influence de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Après, celui-là, c'est pas vraiment pure momento, parce qu'il y a de la trompette et tout ça, mais j'ai choisi Louise Bennett parce que c'était un peu la tantine à tout le monde en Jamaïque. C'est une figure très connue de la Jamaïque, Miss Lou. Elle était poétesse, elle était un peu garante des traditions jamaïcaines, de toutes les vieilles histoires héritées du Ghana, du Nigeria, qui ont survécu à l'esclavage. Mmh. Tu vois? Les légendes de Mami Wata, d'Anansi, dans les campagnes en Jamaïque, on entendait encore ces légendes-là.
D'accord.
Qu'on racontait vraiment... au Momo, au Togo ou au Bénin, il n'y a pas si longtemps encore.
C'est une tradition un peu comme les griots, quoi. C'est
ouais. Parce qu'il y a les Jamaïcains, à la base, c'était une île de pirates, pour de vrai, ouais. À Jamaïque. Et quand les Anglais ont pris le contrôle de l'île et donc ont commencé à commercer des esclaves, il y a eu les Maroons, donc les nègres marrons. Mmh. Et très vite, il y a eu des guerres et il y a eu des villages marrons indépendants avec des traités de paix. Donc on préservait un héritage très très africain dans certaines parties de la Jamaïque, tu vois.
Okay. Les nègres marrons, tu peux préciser les Maroons, ce que c'est?
C'était les marrons qui se rebellaient, qui,
les esclaves
qui s'enfuyaient des plantations et qui organisaient une résistance face aux colons et tout ça. Il y a eu des moments, ils ont fait des incursions, ils ont couper des têtes, quoi. Et t'as une figure aussi, Anansi, que tu retrouves sur un des billets jamaïcains, quoi. Okay. Anansi, qui était une chef guerrière marron très connue là-bas, tu vois.
Et donc, il y a cet héritage musical qui a été préservé, culturel de manière générale.
C'est ça.
Et qu'on retrouve très inscrit en Jamaïque, et retrouve dans le mento notamment.
Tu retrouves dans le mento, et c'était un dérivé des percussions africaines, des percussions Nayabingi, Kumina... Poco, parce que pareil, t'as un peu l'héritage vaudou là-bas, ils appellent ça Obea. T'avais les Rasta, qui étaient présents, qu'on devra forcément aborder, hein, qui étaient présents dès les années 30, okay. qui célébraient en percussion, tu vois. Par exemple, vous voyez le morceau By the Rivers of Babylon de Boney M.
Bien sûr.
Vous savez que c'est un hymne traditionnel Rasta à la base.
Ah oui.
Ah ben, il y avait Babylon dans le nom, on aurait dû savoir. Eh ouais.
Mais c'est fou que ça ait traversé.
Attends, on se met juste un extrait, parce que tout le monde va reconnaître River's of Babylon.
Du bonhomme, c'est incroyable.
C'est fou, hein.
Incroyable.
C'est ça. Mais cet air, il le chantait sur les percussions traditionnelles Nayabingi Rasta.
Et tu sais pourquoi Boney M s'est intéressé à ce morceau? Tu sais pas du tout?
Absolument pas. C'est fou, parce que j'ai parlé avec les filles de Boney M un soir, okay. Aux Arforins. Je savais pas du tout que je parlais avec elle, et après je les ai vus chanter, c'était pour un truc de la RATP, rien à voir. C'était tantine de Boney M. Et j'aurais dû leur demander, je regrette, j'aurais pu avoir le...
Pourquoi ils ont repris ça?
Le fameux de l'histoire,
ouais. J'avance un peu pour qu'on connaisse. Bon, c'est un bon gros tube, hein.
Tu vois, In Zion et tout, quand t'écoutes. L'air était entraînant, personne n'a calculé les paroles en fait. Ouais. C'était des trucs bibliques. Parce que tu sais, il faut savoir que les Rasta...
Alors les Rasta, c'est une communauté, autour d'une spiritualité, c'est ça?
Ouais, c'est une spiritualité, il y en a qui appellent ça une religion syncrétique. C'est-à-dire que t'as eu plein de mouvements afro-spirituels qui sont nés dans les Caraïbes comme aux États-Unis pendant ce siècle-là. Et ils ont commencé à monter communauté indépendante avec une relecture de la Bible. C'est-à-dire que eux, ils s'identifiaient aux Israélites capturés par les Égyptiens. Et pour eux, ben c'était eux, les Noirs tenus en captivité, tu vois, par Babylone, qui peut être l'Occident, qui peut être plein de choses.
Ce qu'on retrouve avec la figure de Moïse, qui est très reprise justement dans la soul, le R&B, par les Noirs américains aussi, etc.
Bien sûr. Ouais, ou qui pourrait s'apparenter aux 9%ers qu'on entendait beaucoup dans le hip-hop, qui diffusaient leurs idées à travers le Wu-Tang, Rakim et plein de groupes. Et le truc, c'est qu'il y a un leader... Le premier leader afro international qui s'impose sur la scène, qui s'appelle Marcus Garvey, qui vient de Jamaïque, et qui dit tournez-vous vers l'Afrique, un roi noir va être couronné, il sera le rédempteur. Et à ce moment-là, il est Selassie en Éthiopie et couronné. Donc tous les Rastas voient ça comme une prophétie, sachant que selon le livre le Kebranagast éthiopien, tu sais que il serait le descendant de la ligne salomonique, donc de
c'est technique là.
Ah ouais, c'est super loin.
Ah ouais,
c'est
technique tout ça.
Tu sais, l'union entre la reine de Saba et le roi Salomon, il est dit que ils descendent de cette union tous les empereurs éthiopiens. D'accord. Donc les Rastas voient ça comme une prophétie et l'érigent en dieu vivant. Alors, il y a des différences d'interprétation et tout ça. Mais,
En tout cas, pour comprendre, parce que tu connais très bien, peut-être qu'on peut perdre un peu les gens.
Ouais,
mais l'idée,
ouais,
c'est donc que les Rastas, le rastafarisme, on peut dire ce terme. Ouais, ouais. Comme tu parlais de syncrétisme, ils prennent un peu à droite et à gauche,
oui,
ils réinterprètent
parce que, par
la
exemple,
tradition biblique.
Tu vois l'intervention des lox ou de l'herbe, parce que chez les Rastas, l'herbe est une plante sacrée, hein, c'est un sacrement.
Tu parles de la weed, vraiment la beuh, quoi.
Ouais, ouais, la weed. Et puis Dieu sait que la weed jamaïcaine. Waouh. Elle est bio. Mais il y a différentes origines de tout ça, tu vois. Pareil, t'as la communauté indienne qui est venue, comme dans toutes les Caraïbes, quand l'esclavage a été stoppé, ils ont amené des Indiens pour travailler pour pas cher. Et il est dit que les Sadous avec les Lox ont ramené leurs graines d'air, parce que les Sadous fument aussi, et que le mode Aïtal, par exemple, Aïtal, c'est être végétalien. La plupart des Rastas sont végétaliens.
Ça viendrait d'Inde aussi.
Ça pourrait, ouais. Mais c'est large tout ça,
ouais.
Tu vois, c'est très large, et puis c'est des relectures, des réinterprétations, mais il y avait surtout un désir de se réapproprier leur vie, de sortir de ce truc de l'Église, parce qu'on sait que la Bible et l'Église ont été des outils, ouais, de domination.
Bien sûr.
Et voilà, de reprendre leur destin en main, d'essayer de retrouver une africanité qu'on leur avait volée.
Et alors, si on se remet dans le contexte, ouais, musical, entre guillemets, parce qu'on comprend les spécificités culturelles de la Jamaïque.
By the Rivers, ouais, of Babylon. Ouais. À l'époque, t'avais une communauté rasta qui était tenue par quelqu'un qui s'appelle Kuntosi. Kuntosi and the Mystic Revelation of Rastafari.
Okay.
Il faisait régulièrement ce qu'on appelle des Nayabingi, où les mecs chantent sur les percussions rasta. Tu vois, c'est un rythme, okay, tout simple. Ils disent, c'est les battements du cœur. Eh ben, il y avait énormément de musiciens qui venaient buffer avec ça. Cédric Kimbrooks, qui a sorti des disques Packer Reggae, des Rico Rodriguez. Et dans ces musiciens-là, il y avait des gars qui sortaient aussi de l'Alpha Boy School, qui était un orphelinat, qui apprenait la musique. Un nombre de grands, grands musiciens, dont les Scatalites. Ah. Et les Scatalites...
Un orphelinat dans lequel on apprenait la musique,
c'est, ouais, tenu par des bonnes sœurs. Alpha Boy School. Et on leur apprenait la rigueur. Hein. Et... les plus grands musiciens du plus grand groupe de ce style qu'on appelle le ska, qui est un style qui arrive après le mento, ils passaient aussi par ces soirées rasta. Donc tu vois, tout ça était relié.
Ouais, tout se mélange, en fait.
Ils avaient l'enseignement classique, ils recevaient tous les disques de jazz qu'ils absorbaient, et ils prenaient aussi tout ce côté percussion et spirituel chez les rasta. Et tout ça arrive à un moment où les producteurs jamaïcains, enfin, les importateurs de disques calculent que c'est moins cher de produire soi-même des disques que d'en importer. Eh bien, ils se disent, on va faire jouer les morceaux qu'on aime des États-Unis par des locaux. Et ils commencent à monter des studios. Alors, des trucs avec des quatre pistes, hein, tu vois. Et c'est là que naît le ska. Quand tu écoutes le ska, c'est du rhythm and blues, mais où les Jamaïcains commencent à beaucoup plus prononcer l'accent.
Ok.
Tu vois,
t'as un exemple de morceau ska
Russian Ska Fever.
Les Scatalites.
Ouais, Scatalites.
Allez, on s'écoute ça pour avoir une idée là un peu de ce dont on parle.
On dirait du rhythm and blues accéléré. Sauf que voilà, ils ont mis plus d'emphase sur la syncope, ouais, et ils ont commencé à développer leur propre style. Mais avec toujours ce même truc que tu retrouves dans, finalement, dans toutes les musiques afro-américaines, afro-caribéennes, call and response. Ce truc qui vient d'Afrique.
Qu'est-ce que tu appelles le call and response pour qu'on comprenne?
Call and response, c'est vraiment avec un gros thème et un élément de chant ou de musique qui y répond.
Okay. Comme on peut le retrouver dans le jazz aussi d'ailleurs. Ouais.
C'est en face le jazz, ouais, la Nouvelle-Orléans. Et c'est pas pour rien que la Nouvelle-Orléans, on dit que c'est la ville la plus au nord des Caraïbes. Et c'est pas pour rien. Et quand tu y vas, parce que je suis allé à la Nouvelle-Orléans, j'ai pris une des plus grosses gifles musicales de ma vie. Et quand tu vas là-bas à Trémé, tu parles avec les gars, ils disent, bah, tu sais, nous, sans Cuba, sans Haïti, sans tout ça, il n'y aurait pas de jazz. Déjà, t'écoutes la musique de la Nouvelle-Orléans, t'entends la, dans les vieux trucs de rhythm and blues, t'entends la main gauche du mambo. Tu l'entends, tu vois. Et t'entends le vaudou d'Haïti. Tu vois, ouais,
tout ça, c'est vraiment...
Tout ça, c'est... Mais moi, je suis passionné par ça. J'en suis venu à ça avec le journalisme. Mais c'est une vaste partie de ping-pong qui se joue entre les États-Unis et la Caraïbe depuis plus d'un siècle. T'as le premier disque de Calypso, il est sorti un an avant le premier disque de jazz.
D'accord.
Tu vois. Est-ce qu'on a écouté un morceau qui serait plus dans l'esprit Mento avec Louis Bennett, si j'ai bien compris? Ouais. Là, on a écouté du ska avec The Skatalites. Un morceau... Et le Calypso, ça reste... Parce que le Mento et là, ce qu'on a écouté, le ska, c'est quand même assez différent.
C'est différent.
Ouais.
Ouais, ouais.
Et le mento, c'est encore autre chose. Ouais.
Tu sens entre le mento et le ska, t'as quand même cette racine commune qui est le rhythm and blues. Ouais. Tu l'entends quand même. Après, le mento était pas purement rhythm and blues, on va dire, c'était un peu endémique à la Jamaïque. Okay. Mais il s'incorporait très bien avec le rhythm and blues, mais à la preuve.
Et le ska lui-même, il tire un peu ses racines du mento ou ou du calypso, ouais.
Forcément. Ouais. Forcément. Et il y a un moment où tous ces grooves referont surface. Tu vois? Mais quand tu parles de mento, là, on va faire un bond dans le temps, mais tout le monde connaît Murder, She Wrote,
ouais,
de Chaka Demus et Pliers. Mm. C'est-à-dire, c'est sorti en 92, en 2024, tu lâches dans n'importe quelle soirée.
Ça part.
Ça part.
Mm. Ok, et là, on serait dans Calypso.
Eh ben, c'est-à-dire que quand il trouve ce pattern slide and bar, il me l'a expliqué en personne. Il voulait reproduire un mouvement que font les danseurs de mento.
Ok.
Et c'est là, quand t'entends le tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, il voulait refaire une danse, en fait. Et finalement, ça aboutit sur ce truc qui est un des trucs les plus connus du dancehall.
S'est inscrit dans la tradition en réalité plus ancienne.
En fait, il voulait chercher à faire du mento à la base. Okay. Pour te dire, tu vois, donc tout ça, c'est jamais loin, quoi.
Tu veux qu'on s'écoute un extrait? Donc, Chaka Demus, Pliers,
le fameux
Murder, She Wrote.
Allez.
Vas-y, tu nous dis, regarde, je lance, hop. Ah oui, c'est extrêmement connu, effectivement.
Yes. Bah. Écoute encore Linon de Major Lazer il y a quelques années. Tu vois, c'est Slide and Bar qui a composé ça sur sa MPC en essayant de faire un truc de mento. C'est marrant, dans ce track, t'écoutes, il n'y a pas de basse.
Et absolument.
Une corde grave de guitare. Un seul accord. Il parle d'avortement quand même là-dessus. Ouais.
Donc je précise juste quand tu parles de Slide and Bar, c'est le fameux Slide and Robbie justement dont on parlait depuis tout à l'heure.
Ouais, ouais. Ils sont beaux, c'est qu'un de leurs plus grands tubes à ce jour, hein, mais. Quelle tuerie. Bon,
comment on aboutit au reggae après? On a compris en gros.
Alors, le reggae.
Tu vois le bassin culturel de tout ça.
On passe par le ska, ok?
Ok.
Du ska naît un style qui va durer que quelques années qui s'appelle le rocksteady.
Ouais.
On ralentit le rythme. On garde la syncope, mais on la re-ralentit.
Okay.
Ça, c'est marrant. On a pris le rhythm and blues et le jazz, on les a accélérés avec une syncope et maintenant on ralentit en gardant cette syncope. Mmh. Un des meilleurs exemples, tiens, parce que Bob, il a commencé par le ska. Hein. Mmh. Son premier titre, c'était Simmer Down avec The Wailers.
Okay.
Mais on va s'écouter Nice Time. Nice Time de Bob Marley. Ça te ferait bien comprendre le groove du rocksteady, qui est un style qui a duré pas longtemps. Et il reprenait trois quarts des titres, c'est des reprises de soul.
Ouais.
C'était des furieux, des friands de The Impressions avec Curtis Mayfield, de Sam Cooke, de chanteurs comme ça. Et Bob, il a commencé en imitant James Brown et tout ça, tu vois. Et Nice Time, tu vas comprendre ce groove.
On est en 67 normalement sur Nice Time.
Tu commences à sentir le reggae qui presse sur le bout, sur le point de pointer le bout de son nez, tu vois.
Donc ça, c'est pas considéré comme du reggae encore. Parce que pour moi, on est dedans là.
C'est juste avant. Et pourtant, on est dedans, hein.
Ouais.
Et en même temps, je trouve qu'on ressent encore plus l'influence américaine, R&B là-dedans.
Blues, vraiment. Mais vraiment, là, je t'ai dit. Et c'est, il y a beaucoup de chanteurs en Jamaïque qui chantaient en falsetto parce que c'était des bousiers de The Impressions. Curtis Mayfield chantait en falsetto. Tu vois? Et donc là,
avec cette voix de tête, le falsetto.
Ça doit être quelle langue on a, quelle année on est en 67, un truc comme ça.
Ouais, 67, c'est ça.
C'est l'année d'avant la création du reggae. Et le morceau qui fait office de naissance du reggae, c'est Bangarang de Stranger Call en 68. Et en fait, la différence d'Az, parce que c'est, on est d'accord là, c'était peut-être pas forcément le bon exemple, il est très proche du reggae celui-là. C'est que ils ont rajouté encore de l'emphase et de la relâche dans le groove, dans ce qu'on appelle le skank, la pompe. Et là, naît le reggae. C'est le premier titre reggae officiel, c'est celui-là, ouais. Stranger Call. Et la batterie commence à encore plus s'écraser. Défonce.
C'est trop bien.
Ah non, mais t'as deux labels à l'époque, Treasure Eye et les Studio One. Enfin, t'en as plusieurs, hein, mais ces deux-là, là, t'en as plein de sons comme ça. C'est chaleureux, c'est de la soul des îles, tu vois. Pour moi, le reggae, ça a toujours été du blues des îles. Et c'est marrant, tu te rappelles, Bob, ils avaient incorporé un guitariste américain, Al Anderson. Okay. Parce que Chris Blackwell avait une vision, il s'est dit pour vendre Bob Marley.
Il produisait Bob Marley, ouais.
Ouais, on va rajouter un peu d'éléments.
Il est partout ce mec-là. Hein, si
ah, Chris Blackwell, il a eu le pif. Hein. Mais là, pour le coup, il a vraiment commencé en Jamaïque, c'est de là qu'il est né, quoi.
Alors j'ai vu, il n'est pas né en Jamaïque, en fait. Parce qu'on en avait parlé aussi avec Wally, il nous avait dit pareil, mais d'après Internet, il serait plutôt né à Londres. Alors très vite,
il est issu d'une famille,
il va en Jamaïque.
Il est issu d'une famille de planteurs jamaïcains.
Ça, c'est possible.
Ouais.
Okay.
Et c'est marrant, Wally Badarou, vous n'en avez pas parlé, il a fait la BO d'un film très culte dans le reggae qui s'appelle Countryman.
Oui.
Et c'est l'histoire un peu perso de Chris Blackwell,
okay.
Ce film. C'est fou. Et c'est... Moi, Wally Badarou, j'ai découvert comme ça, tu vois. Mais on en était où, là?
On découvre comment naît le reggae. Il y a aussi une évolution, quand même. Il y a une évolution sonore, on a compris, entre Mento, Ska, Rocksteady, etc. C'est la guitare, j'ai l'impression, de plus en plus présente, quand même. Plutôt guitare électrique.
Ouais, tu commences à l'entendre. Après, la guitare électrique, elle apparaît vraiment dans les années 70. Je t'ai dit, c'est plutôt avec des trucs comme Bob Marley, hein, sur l'initiative de Blackwell, dans leur album Burning Ed Lutin, où là, ça y va, ça incorpore des guitares rock, parce que Chris Blackwell, il s'est dit, je sais que j'ai un ovni, mais comment je le vends au monde? Parce que,
tu vois, au début, pas rester catalogué.
Ouais, le but, c'était de percer les States, et bon, tu vois, les States, quand ils écoutaient ça, les mecs, ils disent, bon... Vous refaites une sauce chaloupée de ce qu'on a déjà. On dirait que c'est enregistré dans mon placard. Tu vois, c'était un peu comme ça que les Américains regardaient ça. Tu sais, les Afro-Américains, ils peuvent être très hautains avec avec les Noirs, pas d'Amérique. Tu vois.
Ouais.
Donc bon, il a regardé un peu comme ça. Bob, il a galéré pour percer aux States. Il a grave galéré.
Parce que l'instrumentarium, entre guillemets, du reggae, ce qu'on retrouve principalement, c'est quoi? C'est basse, guitare, batterie?
Alors ouais, drum and bass. Ouais. Impondérable, vraiment. D'autant plus que le reggae, c'est vraiment la basse. C'est la basse qui s'affirme. Okay. Elle prend de plus en plus de place, elle commence à groover, mais d'une manière plus écrasée. Lipéry, qui est un producteur de génie, disait « Le reggae, c'est comme si t'avais marché dans la colle. » Dans la basse de reggae, je trouve l'image, elle est très parlante.
Okay.
Donc ouais, en général, t'as le shuffle d'orgue, ce qu'on appelle la pompe. En général, t'as un skank de piano aussi.
C'est des orgues d'ailleurs, parce que ils arrivent à faire venir facilement des instruments et tout.
Facilement, non, mais ils y arrivent, hein, tu vois. Mais donc c'était un peu comme partout, tu sais, les B3, des trucs avec des cabines Leslie. Mais faut savoir que eux, c'était des studios, ils avaient que des 4 pistes. Ça condamnait à l'excellence, parce que des fois, ils enregistraient, ils gravaient le scud en même temps qu'ils enregistraient. Et donc les bandes, ça coûte cher. Et c'est pour ça que t'avais plein de Jamaïcains qui voulaient se mettre à la musique pour s'en sortir. Et t'avais les gros producteurs, ils faisaient des auditions, ce qui se fait encore aujourd'hui. Hein. Enfin, moi maintenant avec l'avènement des home studios, mais t'avais des mecs, t'avais des lignes de 200 mecs. Moi. Non, toi, reviens dimanche. Tu vois? Pour les musiciens comme pour les chanteurs, quoi. Et puis les producteurs de là-bas, c'était des bad boys, quoi. C'était des Berry Gordy version Jamaïque, quoi. Ce qu'on viendra aussi forcément au caractère un peu sulfureux de l'île, tu vois. Ça
une
compte aussi
pirates,
dans la musique.
On l'a dit.
Une île des pirates, ouais. Ouais.
Et le lien, d'ailleurs, entre ce reggae naissant, là, et les sound systems. Tout de suite, le reggae, et on joue dans les sound systems.
Ah, mais bien sûr. Ouais. Mais
c'est lié tout ça,
forcément. Tout frais sorti du studio. Ouais. De la même manière que Stax. C'était connu qu'une des fondatrices de Stax, t'avais le frère et la sœur, là.
Donc le label de musique Stax, qui est un peu le pendant de la Motown, en gros.
Voilà, mais version soul du sud, ouais. Tu vois. Et elle disait, mais quand t'as produit un titre, tu veux savoir s'il est bon, tu le joues dehors et tu regardes si les gamins y dansent. Et ben, Jamaïque, c'était pareil. Et c'était les titres en son système. Les gens dansaient, tapaient sur les murs, demandaient ce qu'on appelle le pull-up, c'est-à-dire remettre le morceau en arrière parce que putain, c'est trop bon. Et ben, on produit le disque. On y va.
Et ce qui est dingue, c'est que, si j'ai bien compris, il y a presque plus la culture de passer le disque qui vient d'être pressé que de faire jouer live les groupes.
Ah ben, parce que ça, encore une fois, coûte moins cher. Ouais. Ça coûte moins cher. T'as des groupes qui jouent, hein. Et t'as aussi, le Calypso continue toujours, hein. Ouais. Mais le Calypso, c'est pour les riches dans les hôtels. Le Mento, alors c'est de plus en plus l'attraction touristique pour les riches dans les hôtels. T'as aussi des concerts tous les ans, des concours auxquels ont participé tous, hein, Bob Marley, toute scène de Maytals et compagnie. Et le son de système qui est le poumon du reggae, parce que bah, la rue a toujours raison sur les tendances, la rue est toujours première. Et finalement, les Jamaïcains faisaient des blocs parties comme les Américains, comme New York, les Afro-Américains faisaient ça à New York, à San Francisco. Et
parce qu'on l'a pas précisé, ces sound systems, ils peuvent être en intérieur, ils sont essentiellement en extérieur, c'est les deux.
Okay. C'est les deux. Et voilà, et puis en plus, les labels, les différents labels, attention, des fois ça finissait en baston, quoi. Ils envoyaient des mecs foutre la merde dans le sound system du concurrent et tout.
Parce qu'il y avait une économie autour du sound system.
Ah, bien sûr. Et on viendra à ça aussi, le reggae est toujours né aussi de la débrouille, quoi. C'est marrant même quand il arrive en France.
Et par exemple, pour participer au sound system, il fallait lâcher un petit billet ou
ça dépend du sound.
Pour assister.
Des fois
pour
oui, assister, ouais, des fois non. Et c'est cool que tu parles de Stax là, parce que arrive une autre évolution l'année d'après. On va pas faire 50 non, ans, hein, oui, année par année, oui, mais oui. Là on parle des évolutions très importantes.
Oui.
En 69, il y a King Tubby. King Tubby qui est, avec Bunny Lee, connu pour être l'inventeur du dub.
Okay.
C'est là on parle de choses importantes dans la musique. Le dub, c'est pas rien, ce que ça a accouché. Et, le producteur Bunny Lee, il y a son ingénieur du son qui fait une erreur en studio, qui se retrouve à passer le son sans les voix, là où il aurait dû passer avec les voix. Il se dit, ah putain, il y a un truc là. Ça revient aux oreilles de King Tubby. King Tubby qui était à la base un électronicien, tu vois, qui a fini ingénieur du son. King Tubby, qu'est-ce qu'il fait? Il entend ça et dit, ah ouais, mais attends. Et il attrape un mec qu'on appelle U-Roy. U-Roy, qui est considéré comme le papa du rap par certains, en tout cas le premier gros toaster jamaïcain. Il dit à U-Roy, écoute, j'ai fait un son, j'ai enlevé les voix. Ce soir, tu vas lancer le son. D'abord, la face A avec les chants. Ensuite, on va retourner le disque et tu vas te mettre à toaster sur l'instru. Parce qu'à la base, les animateurs de son système, vu qu'il n'y avait qu'une platine, le temps de retourner le vinyle.
Ouais, il prenait le micro.
Il faisait des tchatchs, ouais, comme dans les radios carwash aux États-Unis.
C'est le principe du MC aussi qu'on trouve dans les block parties.
Voilà. Sauf que, on dit DJ en Jamaïque.
Pour le mec qui
fait la tchatch entre les disques, on l'appelle DJ. Alors qu'aux États-Unis, le DJ, c'est celui qui gère les disques.
Les platines,
et celui qui gère les disques, on l'appelle le Selecta. Et t'as l'opérateur qui gère la technique. Oui. Et donc, il lui dit, ben là, tu vas toaster sur le morceau instrumental. C'est la première fois de l'histoire de la musique contemporaine qu'on conçoit un titre pour toaster dessus sur un disque en bloc party. Et ça, c'est les Jamaïcains, c'est 60.
Parce que le toast, c'est, on le rappelle, c'est du freestyle. Il n'y a pas de,
y
a rien d'écrit. Le mec, il prend le micro et il y va, quoi.
Il balance.
Avec un phrasé plutôt. Qui sera.
Et bah, tu sais quand, on va s'écouter cette folie. U-Roy Dynamic Fashion Way, un truc comme ça.
C'est ça.
Je vous ai dit, je suis pas un gros...
1969.
Ouais, 69.
Il est carré quand même.
Ouais, ça va.
Ouais, ça va.
J'ai encore un peu de mémoire.
Only by these brothers of talent, like the man called Val Bennett on tenor saxophone, along with the man, the great producer, Kay Hudson around. Studio kind of real cloudy, like I say, as I bring back this musical disc called Dynamic Fashion Way, third version of your fashion way. Get in the groove and don't be rude. So brother, you'll be real cool when I spin musical disc of today. It could be only by special request that I do so. Great old-fashioned way played back. My special request in a dynamic fashion way.
Yoroi, qui est l'auteur de ces fameux This Generation, Rule the Nation, Inversion, tu vois, qui avait repris Musical Youth et tout, quand ils avaient volé le morceau Pass de Cucci de Mighty Diamonds. Mais voilà, et là il se passe un truc, les gens. J'en ai parlé avec Yoroi quand je l'ai interviewé, il m'a dit, mais mec, pas une seconde j'aurais cru que ce truc irait aussi loin, et que des sons de système on enverrait au Japon, en France, en Afrique. Que toi, là, qu'à l'âge d'être mon petit-fils, tu me parles de ça un jour, tu vois ?
Si seulement.
Ouais.
Ce qui est ouf, c'est que du coup, ça en dit beaucoup aussi sur la façon de faire des disques, c'est que le mec, en fait, contrairement à aujourd'hui, on a plutôt tendance à chanter sur une instrumentale, c'est-à-dire que lui, il, par accident, il s'est retrouvé avec l'instru, tellement ils enregistrent tout en même temps, ouais, avec les voix, machin, etc.
Ouais, c'est
quoi.
Ça. C'est ça.
Donc c'est marrant aussi de voir
Mais la culture de la débrouille, quoi. Ouais. Et ça a été une traînée de poudre. Alors, Yoroi, c'est pas le premier DJ. Avant lui, il y a eu King Shit, enfin il y a eu Count Machoki, ensuite King Shit et ensuite Yoroi, quoi. Mais c'est considéré, il est considéré comme le premier gros DJ, quoi. Et puis derrière, il y en a eu plein des DJ, quoi. C'est vraiment et finalement les gars dans ce que t'appelles le raga, le dancehall, les gars qui débitent, c'est les enfants, c'est les petits enfants de ces mecs là, quoi. Et les années 70, en fait, c'est en Jamaïque, c'est vraiment spécial parce que la gauche est passée au pouvoir, Michael Manley, mais l'extrême gauche, en fait. Et c'était vraiment les États-Unis voyaient ça d'un très mauvais œil, parce qu'ils se disaient on veut pas d'un deuxième Cuba. Mm-hmm. Donc ils ont commencé à envoyer de l'oseille et des armes aux partis concurrents pour par tous les moyens essayer de
que la Caraïbe soit pas une zone
voilà, même si Fidel Castro il y a un petit rapprochement, mais il prenait pas vraiment les Jamaïcains en sérieux. Mais ils ont essayé d'enrayer ça par tous les moyens. Donc du coup, pour se défendre, la gauche commence aussi à employer les voyous du coin et puis commander des armes et tout ça. Et ça a fini dans des rivalités pas possibles. Et à chaque élection, on était limite en guerre civile.
Ah ouais.
Imprégné de tout ça, avec en plus les Rastas qui voyaient tout ça d'une manière prophétique. Les années 70 à Kingston, c'est un truc où les gens, ils ont eu de l'espoir au début quand la gauche est passée. Parce que c'était vraiment très marxiste. Et puis, de plus en plus, c'est aller vers la désillusion, quoi. Et ça nourrit tout ça, en fait, dans le reggae. Tu vois, dans les chansons de Bob Marley, quand t'entends One Love, quand il parle de One Love, lui, il pense pas forcément au monde. Hein,
il pense à son quartier.
Aux gens qui s'entretuent dans son quartier ou sa ville.
Ouais.
Tu vois, le morceau War in a Babylon de Max Romeo, c'est l'illustration de ça, tu vois. C'est, t'as plein de morceaux. Tribal War, ça revient très, très souvent, quoi. Donc c'est marrant, cette. Parce que le reggae en France a toujours eu une étiquette de on filme la ganja, ouais, c'est cool, allez, One Love.
Ouais, c'était vraiment le côté piste.
Chris Blackwell est un génie du marketing. C'est-à-dire que quand ça parlait de ces trucs de One Love, en vérité, One Love, on parlait d'émancipation noire, on parlait de lutte anticoloniale, on parlait de la CIA, de tout ça. Et lui, il a transformé ça en cool.
Ouais, message.
On est tous des humains.
Message hippie, presque.
Parce que c'est vrai, quand il produit Marley. Il n'y a plus vraiment de figure contestataire dans la musique. Tu vois, les hippies, c'est un peu endormi comme mouvement.
Ouais.
On est passé au rock psyché, à plein d'autres trucs. Et il se dit, tiens, je vais le vendre comme ça.
Mais c'est-à-dire qu'il a quand même dépolitisé le truc, quoi. C'est-à-dire qu'il a enlevé le message...
Non, pas que, mais... non, parce que regarde, il sort Tie Shot de Sheriff, tu vois, qui est repris par Clapton et ça cartonne.
Ou Warren G aussi.
Mais il a tout de suite beaucoup joué sur le côté prophétique, un peu. De Bob, plus que. On a plus mis en avant,
quoi,
quand même One Love que Burning and Looting, ouais.
Ouais, ok. Ouais.
Burning and Looting qui veut dire ce soir on va tout brûler, on va tout piller.
Ouais.
Tu vois,
c'est vrai qu'on voit, nous on a une image de Bob Marley qui est plutôt.
Bob Marley, t'imagines, lui, métis, donc ultra rejeté dans sa jeunesse. Il y a un moment, il était quasiment à la rue. Sa famille blanche n'a jamais voulu de lui, hein. Donc, un enfant renié, le bâtard, entre guillemets, hein. Tu vois, je sais que le mot paraît dur, mais c'était comme ça qu'il était traité. Je te dis, il a quasiment été à la rue. Il est grandi à Trenchtown, dans un des pires quartiers de la Jamaïque, un bidonville, avec des mecs qui sont devenus plus tard ces fameux tueurs à gages payés par les partis politiques. Mmh. Bah, son surnom, c'est Tough Gong. Tough Gong, ça veut dire quand je t'en colle une, t'es sonné.
Ouais.
C'est pas à coup de bisous qu'on se fait appeler comme ça dans la rue, tu vois. Non, Marley, attention, c'était ouais. Un mec, quoi. Mais avec une vision prophétique. Et c'est fou quand tu dis, quand t'as vécu toute cette merde, que t'arrives à chanter des messages de paix pareil. Mmh. C'est là que tu dis chapeau, quoi. Ouais.
T'as évoqué un morceau et après on pourra s'arrêter sur la figure de Marley, effectivement, plus. T'as parlé de Max Romeo avec Warren à Babylone. Ouais. C'était aussi dans ta sélection musicale. Parce que c'est un morceau qui marque quelque chose.
Ouais, qui est, même à l'étranger, hein, qui est très pour l'esthétique musicale, parce que c'est Lee Perry à la production derrière et c'est un son très spécial. Pareil, Marley, il a été transformé par sa rencontre avec Perry. Et écoute, c'est folie. Même les Beatles se sont inspirés de certaines techniques de mix de Lee Perry.
Qu'est-ce qui
là, c'est fini le 4 pistes, tu l'entends. Tu vois cette espèce de charlet mouillé dans la réverbe. Tu vois le groove qui s'est encore exagéré.
Et puis c'est une note quasi électronique là aussi.
T'as
qui
vu
parcourt tout
les claviers et tout ça. Mais c'était un grand malade, hein, Lee Perry. Hein. Il retournait les trucs, tu sais, les petits trucs qu'on retourne qui font des bruits de vache là. Il les retournait dans des seaux à champagne avec le micro dedans et tout. Il était animé, hein. C'était vraiment mystique, hein, Lee Perry. Bon, il a fini par cramer son studio tellement il allait loin dans le truc mystique. Mais ouais, il a inondé la musique jamaïcaine. Et puis le groupe derrière, maison de Lee Perry, c'était The Upsetters. Les emmerdeurs. Les Upsetters qui seront appelés The Wailers plus tard, quand Bob Marley partira en solo sans Peter Tosh et Buddy Wailer. Donc eux trois, c'était les Wailing Wailers, ensuite The Wailers, ensuite Bob Marley and The Wailers. Et c'est les mecs que t'entends derrière là qui jouent, quoi.
On s'est écouté tout de suite encore.
Ouais, il est bon ce track, hein. Tu vois, ils croyaient complètement à ce qu'ils chantaient, à ce qu'ils disaient, quoi. Tu sais, c'était pour eux. Il va y avoir. T'avais un morceau de Culture qui s'appelle Two Sevens Clash, et t'avais une prophétie comme quoi, quand les deux sets seraient ensemble, ça serait l'apocalypse et tout ça. Et t'avais les gens qui y croyaient vraiment, quoi.
Les deux sets, c'est quoi, c'est 1977 ou c'est quoi?
Ouais, okay. Donc ils ont vu l'année 77 comme. C'est
la scène
de l'apocalypse. Partout en passe, c'est l'apocalypse, tu le sais, Daz. Mais. Bon, en vérité, ça n'a pas eu lieu.
Ouais, ouais, ça alors.
mais après, c'est arrivé à un sacré bordel, ouais.
On a compris que le reggae est aussi le véhicule, ou en tout cas le symbole d'une société traversée par plein de problématiques, y compris de violence, politique, etc. Ouais.
Mais j'aime que tu dises aussi, parce qu'ici, on a trop, encore une fois, le marketing de Blackwell, mais pas que, a fait que on a toujours essayé de résumer le reggae à. Les Rastas, c'est One Love, soit on dit la société ça va mal et tout ça. Ça a toujours été un des trucs du reggae. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, il aurait crevé comme le Calypso. Mais d'un autre côté, le reggae, ça a toujours été aussi. En fait, ça a toujours été le journal de bord du peuple.
Et je dis une bêtise où les fameux skits qu'on retrouvera ensuite beaucoup dans le hip-hop, ça vient de la musique jamaïcaine ou je dis une connerie?
Non, je pense pas.
Okay. Les skits, c'est ces petites interludes qui dépeignent aussi justement souvent un peu un truc du réel quotidien.
Je suis content que tu t'abordes aussi ce lien entre rap et reggae parce que c'est des cousins. Et d'un côté, les Américains ont toujours, les Afro-Américains ont trop souvent voulu écarter l'apport des Caribéens dans leur musique, alors que putain. On parle tout le temps de DJ Kool Herc, même si cette naissance par DJ Kool Herc, c'est un peu un mythe, mais c'est le premier qui a réuni les éléments. Mais les Caribéens, enfin, je veux dire, Grandmaster Flash, ils viennent de Trinidad. Enfin, c'est Daron, ils viennent de Trinidad. Mmh. Dougie Fresh, Slick Rick.
Ouais, ils avaient déjà la culture, en fait.
Il y en a tellement. Tu vois, même les mecs ont dit, ouais, mais il y avait des gars avant Kool Herc. Mmh. Bah, très souvent, tu vois, Hollywood Tex, il est moitié portoricain. Mmh. tu vois.
Donc ça venait de là-bas, quoi, qu'il arrive, quoi.
King Charles. Qui... Non, pour moi, ça vient vraiment, c'est KRS-One, on en a parlé longuement, et il m'a donné la meilleure version pour moi. Il dit, c'est vraiment tout l'héritage afro-américain. Et l'apport que tous les Caribéens ont ramené dans leur valise, c'est la fusion de tout ça qui accouche du hip-hop. Parce que franchement, deuxième génération aussi, quand ils s'engouffrent dans la brèche, tous les Yardis, tous les Portoricains, ils amènent un truc incroyable. Et les évolutions, c'est pareil. C'est tous les six mois, t'as une dinguerie qui se passe et on arrive sur un nouveau step. Donc, c'est des cultures communes et cousines qui sont issues des... Parce que toutes les musiques noires américaines, noires caribéennes, finalement, c'est des résultats d'oppression. Qu'on le veuille ou non, même quand ça parle pas directement d'oppression.
C'est quand même le résultat d'une oppression.
C'en est le fruit, tu vois. Ouais. Et elles étaient faites pour s'embrasser, quoi.
Et on pourra en reparler dans le cadre francophone.
Ah ouais?
Bah ouais, parce que dans la deuxième partie qu'on parlera en France, c'est encore plus visible. Enfin, c'est très visible, en tout cas.
C'est ça.
Mais il y a un truc que, parce que, on a parlé de la figure de Bob Marley un peu. Du rastafarisme, mais là on a compris le propos social, politique qu'il peut y avoir dans le reggae, et ce propos, est-ce que c'est aussi le véhicule spirituel pour le rastafarisme quand même, le reggae, c'est le truc qu'on dit
les mecs en chanson chantaient des louanges, quoi. T'as plein de Peter Tosh qui était son compère jusqu'à la, ce que ça parte les Wailers, parce que ça pouvait pas tenir, c'était trop mal dominant au micro. Tu vois.
Donc attends, donc on récapitule, tu dis, donc c'est les mecs qui bossaient avec Max Romeo à la base, c'est ça tu dis?
Non, c'est
encore avant, c'est ceux qui deviennent après.
Ça c'est les Upsetters, qui on va rebaptiser les Upsetters The Wailers quand ils deviennent le groupe de tournée de Bob Marley.
Ah, okay.
Quand il part en solo, parce que Peter Tosh et Buddy Wailer, ils s'embrouillaient trop avec Chris Blackwell, et Chris Blackwell il arrivait pas à les... Ils étaient prêts à zéro concession, ces deux-là, tu vois. Okay. Peter Tosh, il appelait Chris Blackwell Chris Whitewell. Tu vois là, j'adore Peter Tosh, moi il était très cynique, tu vois. Et puis en plus, c'est plus facile de vendre un métis que des mecs noirs comme la tasse. Ça reste une vérité, hein. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais c'est un fait. Et puis Bob, c'était peut-être celui qui avait un peu plus la dalle, un peu plus. Il était un peu plus prêt à faire des concessions, quoi, parce qu'il y croyait dur comme fer.
Les autres, ils étaient vraiment sans compromis.
Et pourtant, ils ont finalement fait des compromis après, un peu plus tard.
Peter Tosh, ça devient aussi mec un peu pas pop, mais tu vois, qui a eu des
tubes. Il a bossé avec les Stones et tout. Hein. Ouais. Ah, il y a une embrouille mythique où il a sorti un schlass la honte, comment il s'appelle le guitariste des Stones?
Keith Richards.
Et Keith Richards qui avait un calibre et tout. Parce qu'en fait, il a acheté une baraque en Jamaïque. Il avait dit à Tosh, tu peux squatter la baraque. Il savait plus comment lui dire de partir de la maison. Il y a une histoire comme ça. Mais t'imagines l'embrouille. Tu la vois, cette embrouille. Incroyable ou pas? Mais bon, ça lui a coûté la vie aussi, son engagement politique à Tosh.
Ah ouais?
Ah ouais, il s'est fait assassiner en 87 et il venait d'annoncer qu'il allait, racheter la radio nationale jamaïcaine et qui voulait en faire une radio militante.
Ouais.
Il s'est fait les buter pas longtemps après.
Sur Marley, parce qu'on a écouté un morceau tout à l'heure assez ancien où il est plus dans un style rocksteady. Ensuite, donc il devient une figure du reggae. Alors nous, en tout cas en tant qu'Européens ici, pour nous c'est le type qui a popularisé le reggae à l'échelle internationale,
dans le monde entier. Mais encore aujourd'hui, c'est un passeport. C'est un passeport, quoi.
Est-ce qu'en Jamaïque aussi c'est une figure essentielle quand même pour la diffusion du reggae, de la culture?
C'est marrant, très bonne question. C'est-à-dire que Marley, les Wailers, attention, hein, c'était les mecs, c'était dans les sons de système, c'était number one. Hein,
ok,
les
c'était quand même des gens importants.
Ah mais rien à dire, ils adoraient les Wailers. Maintenant, tout ça, c'est jusqu'à Trenchtown Rock, qui était le titre incroyable, on va dire jusqu'à son départ de la Jamaïque. Tu sais qu'il y a eu un attentat contre Bob Marley, il l'explique dans le film, il l'explique dans tous les documentaires, parce que, encore une fois, parti gauche-droite, Bob Marley, il a voulu faire un gros concert gratuit. Le parti de gauche a essayé de récupérer ça, faire des affiches, One Love Peace Concert, enfin pas One Love Peace Concert, Smile Jamaica avec la gauche. Et la droite, ils ont dit, quoi? Et de là, il y a des mecs qui ont essayé de buter Bob, parce qu'il était tellement populaire à l'époque que, il ne peut pas s'acoquiner publiquement avec la gauche. Ça a failli lui coûter la vie, il est quand même monté sur scène. Enfin, Rita Marley s'est pris une balle dans la tête, son manager en a pris une dans le thorax, il en a pris une dans le bras.
Ah ouais, quand même.
Ah ouais. Et il a fait le concert et il s'est barré plusieurs années à Londres. Tu vois?
Parce que c'était trop dangereux pour lui, du coup, de rester là.
Ah bah ouais, carrément.
Parce que lui, jusque-là, pardon, mais... Il n'était pas encarté politiquement, il n'avait pas...
Non, parce que les Rastas ne sont pas encartés politiquement. Ouais, même si tu avais eu une tournée de la gauche qui s'appelait le Bandwagon, où il y a quelques artistes qui ont participé, je ne sais plus si Bob il y a participé, Max Romeo qu'on a écouté y a participé.
C'était un Rasta, Max Romeo?
Ouais. Je lui ai posé la question, il m'a dit, je pensais qu'à l'époque c'était juste, il défendait des idées sociales. Tu vois. J'en ai parlé avec lui. Ouais. Mais non, Bob, il était pas encarté, quoi. Ouais. Traditionnellement, les Rastas, ils étaient un peu plus proches
de la gauche quand
de
même.
Manley, parce que il y a eu une visite d'Haïlé Sélassié en 66 en Éthiopie, et il a donné un bâton, un sceptre, tu vois, que Michael Manley a récupéré. Et il se baladait partout, il disait c'est le bâton de Joshua, tu vois.
Ah ouais, d'accord, ouais. C'est...
Ouais, non. Ah, je te dis, les années 70, c'était vraiment, c'était sur fond de guerre civile et de mysticisme. Mmh. C'est pour ça que ce reggae a autant de teneur, quoi, tu vois.
Mais donc, Sélassié, lui, en Éthiopie, il avait complètement embrassé le truc, en mode, il y a des illuminés qui me déifient à l'autre
bout de la terre.
C'était ça, le truc, tu vois.
Il a donné une partie de terre. Okay. Pour les Rastas jamaïcains qui s'appellent Chachamani.
D'accord.
T'as des Rastas qu'on fait le grand rapatriement et tout ça. Parce qu'ils savaient que, ils savaient qu'il y avait des gars, et puis il y a des Rastas qui ont aidé dans la lutte à l'époque où, Haïlé Sélassié, il avait dû se barrer, tel le général de Gaulle avec la France, pendant l'invasion italienne. Tu vois? Non, lui, il avait dit qu'il fallait fonder une église orthodoxe éthiopienne. Mm-hmm. Et il avait dit, il a juste dit, c'est là, tu vois, le gars sage, il dit « Un homme ne peut pas croire en un autre homme.
Mmh. » JDC, JDR.
Tu vois ?
Ouais.
Et voilà. Donc, mais c'était encore tout frais. Et donc, Michael Manley avait le sceptre, tu vois, le bâton de Joshua. Mmh. C'est très compliqué. Mais traditionnellement, les Rastas, ils ne font pas de politique.
Okay.
Ils vont en parler dans leur musique. Ils sont totalement apolitiques. De toute façon, c'est des gars qui se sont affranchis du système.
Ouais,
pas politique politicienne, en tout cas, entre guillemets.
Pas de politique politicienne, mais c'est vraiment, ils se sont affranchis de ça, quoi.
Mais alors, juste pour revenir sur Bob, parce qu'on allait partir, tu sais, sur le truc, la figure de Bob en Jamaïque. Bob Marley.
Et en Jamaïque, après Trenchtown Rock, et ces musiques, tu sais, où ça
incorpore
des...
Trenchtown Rock, pardon.
C'est un morceau de Bob.
Ok.
Trenchtown Rock, donc le rock de Trenchtown, okay. Un des pires quartiers de la Jamaïque.
Là où il est né, ouais.
Un bidonville. Et c'était vraiment le morceau qui donne de la fierté, quoi. Et ces histoires de guitare électrique incorporée, machin, nan, les Jamaïcains, ça leur parlait pas à l'époque. Ils s'en tapaient.
Mais de guitare électrique, de guitare saturée ou
de
pas...
solo façon rock et tout ça.
Parce qu'en réalité, même dans les morceaux des années 60, c'est de la guitare électrique. Ils sont clairs et tout. Enfin, je pense.
Ouais, ils sont pas contre l'instrument.
Ouais, oui, d'accord.
Ils sont vraiment contre ce truc de rock. Ouais, tout de suite, okay. C'est genre, c'est pas de chez nous.
Parce que le truc de rock, c'est Blackwell qui l'a mis pour conquérir.
Ouais. Après, voilà, et t'as d'autres artistes qui ont emboîté le pas. Et franchement, quand ils pensent, c'était super cool cette fusion. Ouais. Ça a donné naissance à des super trucs. Mais les Jamaïcains, ça leur parlait pas trop. Eux, ils étaient dans leur rub-a-dub et tout. Et ce Marley-là leur a moins parlé. Le Marley qui parlait d'Afrique, sur la fin de ses albums, ça a parlé après la mort de Bob. Tout le monde s'est remis dans les disques et tout ça.
En Jamaïque.
Il comprend en Jamaïque, quoi. Ouais,
donc il y a eu quand même cette scission après Trenchtown Rock où c'est plus le chouchou forcément des Jamaïcains.
Ah bah c'est devenu le chanteur des autres quoi. Il y a un petit peu ça. Je te dis pas que tous les Jamaïcains pensaient ça, mais voilà. Après bah il y a eu le mythique concert où il est revenu pour unifier les deux politiciens. Même si bon bah juste derrière il y a eu les élections les plus sanglantes de la Jamaïque quoi.
Tu
mets Trenchtown Rock ouais bah oui.
About music when it hits you. Whoa, I say one good thing about music.
Une bonne chose avec la musique, c'est que quand elle te frappe, elle ne te fait pas mal. Il avait une sacrée plume, hein, Bob Marley. Frappe-moi en musique, tu vois.
This is Trenchtown Rock. Don't watch that.
Trenchtown Rock.
Big fish or sprat.
Trenchtown
Rock. Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse de fou. C'est, je sais que dans le reggae, en tout cas en France, je sais pas ce qu'il en est ailleurs, en Jamaïque, il y a quand même parfois eu des guéguerres de chapelle. Entre, moi je suis le tenant d'un truc, alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai entendu en tout cas roots, c'est-à-dire le truc un
parfois.
Peu des revenir aux origines.
c'est
tout le temps. Et certains qui disent, non mais telle évolution, ça c'est pas reggae, machin. Enfin, il y a quand même
global. Il y avait des hardcore, des puristes.
Ouais, il y a vraiment ce truc. Est-ce que c'est le cas aussi en Jamaïque, avant qu'on parle de la France? Est-ce qu'en Jamaïque aussi on se dit, ah ouais, les nouveaux qui débarquent et qui font le truc à leur sauce, c'est pas vraiment.
Mais non, mais ça, t'en auras toujours, mais partout, parce que ça c'est humain en fait. Ouais. C'est humain, tu retrouveras ces guéguerres de chapelle dans toutes les musiques, en vrai, et puis c'est. Enfin, c'est des trucs générationnels quoi.
Ouais, mais je pense que c'est plus marqué dans des endroits où la musique n'est pas endémique, où elle a été importée, où tu vas toujours avoir des gars qui vont essayer de coller au truc initial, machin, alors que c'est là où elle a été créée, en fait, ça bouge et...
Ces guéguerres-là, des fois, elles ont plus eu lieu en Jamaïque, parce qu'après, t'as eu des styles qu'on appelle le slackness, Ouais. Tu vois, Slackness, c'était du dancehall où ça débitait des paroles très cash, très crues, des trucs de cul, des trucs d'histoire de flingue, de machin, parce qu'après les élections de 80, là...
Ouais, c'est le gangsta rap, quoi.
Ouais, c'est le gangsta rap du reggae.
Tout à fait.
Ouais. Gangsta reggae, quoi.
Alors, il parle pas que de trucs comme ça, mais c'était cash, quoi. Et c'était, c'est une autre Jamaïque, parce que ça a vrillé. Le truc, c'est que la CIA et Siaga, la droite, a repris le pouvoir. Ils veulent se débarrasser des tueurs qu'ils ont alimentés. Ils n'y arrivent pas. Mm. Et ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, bah, ces tueurs, ils ont expérimenté le savoir-faire de guerre civile. Le trafic de cam, c'est arrivé. Ils ont encore plein d'armes.
Et la CIA, c'est quand même des experts pour créer leurs ennemis après. Ouais. C'est incroyable.
C'est une folie. Ouais. Et c'est fou parce que les premiers mecs à distribuer le crack aux États-Unis, c'est les Jamaïcains qui étaient envoyés par les Colombiens parce qu'ils disaient, eux, ils sont barges.
Ouais.
Je te parle de, c'est pas tous les Jamaïcains qu'on va foutre dans le même sac. Hein. Mais ceux-là, attention.
Les gangsters jamaïcains, quoi. Ouais.
Et tout ce qu'on appelle le dancehall, c'est aussi, bon, à la base, c'est simple, hein, c'est la musique qu'on écoute dans la danse. Mais ce qu'on appelle le dancehall dans les années 80, c'est pourtant du reggae. Mais t'as des mecs qui chantent d'autres trucs, quoi, qui ont une autre manière de chanter. Et on est passé à côté, finalement, ici, parce qu'on était tous occupés à trouver le nouveau Bob après sa mort. Mm. Et on est passé à côté des Yellow Man et tout ça.
Ouais.
Ouais, donc tout ce qui va dériver,
le ragamuffin,
ouais, tout ce qui arrive après, voilà. Dancehall et même jusqu'à, parce qu'on avait fait une petite filiation quand on a parlé de reggaeton, parce qu'il y a des liens aussi avec tout ça.
Le reggaeton, on va y venir.
Chabaronx.
Tout ça quand même, ça a du sens. Le reggae donne naissance aussi un peu à tout ça, quoi.
Ah bah ouais, la jungle, tellement de choses. Bah regarde, là, on a quand même évoqué bon le DJing qui est cousin du rap, ça a compté. Le fait de faire une instru spécialement pour qu'on puisse débiter dessus. Le dub. Qui est précurseur du remix, qui est précurseur de tellement de musique.
On rappelle le dub, on avait parlé un tout petit peu avec Molécule. C'est on se met à manipuler les bandes.
On torture les pistes. Tac, on joue avec les pistes, avec les échos, les reverbs, les delays, tout ce qu'on a sur la console. On joue avec les pistes, on a refait un nouveau morceau. Le dub accouche de tout ça, drum and bass. Tout ça, c'est les gosses du reggae. Donc finalement, DJing, rap, remix,
ouais, on est dedans,
ça s'appelle les trois éléments de la musique moderne. Ouais. Enfin, parmi les trois éléments, ces 20 dernières années, c'est des trucs très
fondateurs. C'est fou que la Jamaïque ait été au cœur de ça.
C'est fou qu'une aussi petite île ait des... Tu sais que ça soit Marcus Garvey, Bob Marley, Usain Bolt, ou... c'est une île de 3 millions d'habitants.
Ouais, c'est ouf. Là. Alors, l'influence, en fait...
Le rayonnement.
Est-ce que le fait quand même qu'il soit anglophone... a pu participer quand même à ce rayonnement international.
Parce que l'hégémonie culturelle, elle est américaine et anglaise. Donc oui, forcément, même si ils ont dû réapproprier leur langage, parce qu'ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas toi.
Ouais, alors, parlons justement dans le reggae, de la langue.
Ouais.
Parce que moi, j'ai découvert qu'il y avait le terme « pas toi » même. Alors en français, on l'écrit « P-A-T-W-A », qui est une forme de créole jamaïcain. Toi. J'ai vu ça comme ça.
Ouais.
Mais à ne pas confondre apparemment avec l'anglais jamaïcain, qui n'est pas exactement non plus le « pas toi », le créole jamaïcain. Bon, je ne sais pas c'est tout à fait...
Moi, quand je parle avec les mecs, ils me disent « pas toi » ou... Ouais. Proper English. Et même quand ils disent proper, c'est proper. Tu vois, je suis très naze pour essayer de faire l'accent jamaïcain, ça m'a même jamais intéressé.
Okay. Mais ils sont c'est comment ils sont réappropriés cette langue, quoi, en gros.
Bah c'est un créole, comme t'as dit. C'est un créole, c'est comme le broken English au Nigeria ou tu vois le pidgin.
Ce qui est ouf, c'est que l'héritage. Du patois jamaïcain, tu l'entends chez les petits londoniens quand ils se parlent.
Ouais, très fort. Ouais, et puis tu l'entends partout.
À la Top Boy.
Même maintenant, ça se trouve. Wagwan. Mais non, mais même Big Up.
Ouais,
Big Up, c'est un truc jamaïcain. Pull Up. Ouais. T'as vu maintenant les gamins, même ici, ils disent Bomboclat.
C'est vrai. Il y a eu un moment.
Oui, ils écrivent.
C'était revenu.
Bomboclat, tu vois, t'es mort de rire. Tout comme. C'est marrant, t'as vu apparemment les petits anglais, ils disent wesh.
Oui, ils absolument, grâce à Central C, qui a fait un featuring.
On a fait un trade, c'est le mercato. On vous donne le wesh, mais on prend le bomboclat. Tu vois, regarde comment ça fait.
Le wesh, c'est quand même plus... Tu sais, c'est plus ramassé, c'est plus... Ouais. Tu sais, ça sort tout de suite, le wesh. Bomboclat, c'est plus compliqué, tu vois.
Et tu vas voir, tu peux l'attraper. C'est vrai. Parce que t'as bomboclat, t'as bloodclat, et t'as bombrasclat. Alors ça, c'est celui de luxe. Non, mais les Jamaïcains, c'est des tueurs. Quand ils parlent, c'est une langue qui est ouverte, qui est musicale. Vraiment, tu vois, c'est une langue naturellement musicale, quoi. Cette langue est groove, elle est incroyable, quoi. Ouais, j'adore. Et les Jamaïcains, bon, même si t'as tout ce fond hardcore, c'est hardcore, les Jamaïcains. Il y a 270 gangs en activité, c'est pas que ça, mais...
Aujourd'hui, c'est toujours un endroit dangereux.
Quand ça tire, quoi. Ouais. Enfin, quand tu vas là-bas, waouh.
Parce qu'on parle souvent d'Haïti pour dire vraiment c'est la zone, tu vois.
Je sais même plus si on, on est.
Ouais, Haïti, c'est. Ouais.
Moi, je t'assure, quand t'es à Kingston, tu passes le gully là, ouais. Tu tombes sur des gars, c'est marqué sur leur tronche qu'ils en ont chié chaque jour de leur putain de vie, quoi. Ils sont... T'as pas envie de les chicaner.
Ouais.
En même temps, t'es pas là pour faire le
paillasson. Ouais, ouais.
Et en même temps, bah, ces mecs-là, des fois, tu parlais que c'est des amours, en fait. Ouais. Et c'est des gars qui ont un sens de l'humour incroyable. Alors, ouais, ils vont te surnommer, mais en deux minutes.
Ouais.
Et vraiment, moi, je me suis beaucoup marré là-bas. Personne m'a vraiment menacé,
tu
machin.
Tu es allé plusieurs fois?
Non, je suis allé qu'une fois. J'aurais bien aimé avoir l'étude, mais. Voilà, ouais. J'y suis allé juste avant le confinement. Ouais. Et j'ai rencontré DJ Kool Herc là-bas en soirée, truc de ouf, avec Saros. J'ai bossé chez Biniman, on a bossé avec Lexus, avec Sasco. C'était incroyable. Et ouais, non, j'étais parti avec un producteur, moi, pour faire poser des artistes sur des sons qu'il avait composés, tu vois, pour une équipe. Qui malheureusement s'est dissoute juste après le comeback. Donc c'est des trucs qu'on a des disques durs. Non mais il faudra qu'on en fasse quelque chose. On a des matériaux incroyables quoi. Mon premier track, je posais Mister Lex sur de la house. C'était ouf. Parce que c'est des 4x4 en fait. Ils sont beaucoup moins fermés que nous musicalement.
Ouais, ils
ont des bases tellement solides, des racines tellement solides qu'ils prennent tous les courants et les incorporent en fait. Ils sont pas du tout fermés. T'as des sons de système des fois où là-bas ça pourra tirer. Parce que t'avais un truc qui s'appelait le Gun Salute à l'époque. Tirer des coups de feu en l'air parce que t'apprécies la musique. C'est une manière d'exprimer ça, tu vois. Et mais des fois, t'avais des mecs qui mettaient des guns salutes sur du Céline Dion. C'était gros, you voix, tu sais, ou sur des sons de country. Ils adorent la country aussi.
Ça me fait penser à cette fameuse vidéo, ouais, vous la connaissez, où on passe du mano à des ricains, tu sais, bien gangsta, et les mecs s'enjaillent de ouf sur le mano en disant ah ouais, c'est lourd ça et tout. Comme...
Arrête, sérieux.
C'est sûr, ça, avec une vidéo comme ça, elle est incroyable.
Ah, je suis curieux, vas-y, je vais aller traquer ça. Ouais. C'est drôle.
Et alors, peut-être dernier truc. Enfin, après, tu nous diras si on a oublié quelques trucs pour comprendre les bases du reggae.
C'est tellement riche. Qu'on soit clair, salut les caméras. Ouais. On a mis des moments clés là. C'est une histoire qui est tellement vaste,
bien sûr,
qui est tellement riche. Là, j'ai pris des petits moments clés quoi. Pour tenter d'expliquer à mon petit niveau.
Et puis on pourra écouter encore un ou deux extraits pour terminer cette partie. Mais il y a juste une notion importante du reggae dont on n'a pas parlé, celle de rhythm.
Ouais. Ah ouais, très important.
C'est un truc tu peux nous en parler.
Il y a un truc qui est propre à la musique jamaïcaine, c'est que plusieurs chanteurs peuvent poser sur le même motif musical. Mmh. Et c'est pas grave. C'est-à-dire que mais encore une fois au début ça s'est fait pourquoi ? Par souci économique. Tu vois, le reggae n'est toujours de la débrouille. Et après c'est des trucs qui s'installent. Donc ensuite c'est fou parce que pour un DJ, c'est du pain béni.
Ouais.
Au moment où ils ont eu enfin de platine. Et ben, t'as le même son. Et tu peux encore plus faire réagir la foule, t'as même pas besoin de remix. T'as le gars qui chante dessus, ah ouais, t'as aimé le Dennis Brown, attends, je te mets le Tapazuki. Et des fois, sur ce qu'on appelait un rhythm, c'était le nom d'un instrumental populaire, et tu pouvais avoir un disque où t'avais le même son avec 15 chanteurs différents dessus.
Ouais.
Et ça, c'est un truc jusqu'à aujourd'hui. Ça marche un petit peu moins qu'avant. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, quoi. Ouais. Et ce, depuis la fin des années 60.
Et donc il y a des rythmes comme ça qui
ouais,
qui
et c'est pour ça que moi je peux poser sur des rythmes, tu vois, sur mon album, je sais pas, le titre Parigo, bah j'ai posé t'as eu le placement de produit subtil.
T'as raison, moi j'ai écouté.
Mais le titre Parigo en fait c'est
avec
un
no
son
joke.
T'es cette corrompue.
Ah mais oui.
Je t'ai renvoyé l'eau là mon gars.
Là c'est une rêve commune là, non?
C'était un groupe de phare de hip-hop de chez
c'était
nous.
C'était le Wu-Tang du 77.
Exactement. Là attention, il y avait des mecs très talentueux là-dedans.
C'était très très fort.
Et c'est un son qui était sorti sur un album d'Ora Sandy par exemple.
Ok.
Tu vois, Ora Sandy, vous vous rappelez le chanteur jamaïcain de Massive Attack?
Oui.
Qui avait une voix avec un delay naturel là. C'était... c'est ce gars-là.
T'as repris un de ses rythmes.
Ouais. Ou un autre que j'ai fait avec celui où je chantais avec Marina P, la Miss and Mr. Rubadub. C'est à la base un rythme qu'ils avaient fait pour Brinsley Ford, le chanteur d'Aswad.
Okay.
Tu vois, qui est un groupe culte anglais.
Tu écoutes un extrait de Parigo?
Vas-y!
Allez, vas-y, c'est parti. Ouais. Donc c'est Jahil avec No Joke, tu disais effectivement.
Et cette corrompue,
Parigo.
Et y'a No Joke, bien ou bien? Vas-y mon copain, viens qu'on leur chante le refrain.
Anywhere we go, they know we party, party go. Party, party go, anywhere we day.
qui squattent sur nos trottoirs. Nous c'est Mozart Ganson,
nous c'est Molière Rochetard,
nous c'est Jacques Brel à la Picard,
nous chez les blédards.
Je sais pas si t'as déjà pris le temps
à 5h du matin,
que les volontés des Maliens,
combien sont clandestins,
chinois comme vietnamiens,
se mettent l'oseille entre cousins,
quand les affaires vont bien,
rachète tabac du coin.
Fabre, Strasbourg, Saint-Saint, Château, Gouche, chez les Quinquins. T'as connu Tintin au Congo, là c'est le Congo chez Tintin.
Ah, je suis con.
Alors, c'est quand même assez incroyable après tous les trucs jamaïcains qu'on a écouté, toutes les refs par ego.
Mais ça marche. Ouais, mais c'est ça.
Moi, ça glisse en plus. Hein.
Ouais, moi, c'est ça. Tu vois, c'est mon travail dans le reggae. J'essaye de ramener notre truc à nous parce que c'est les singes en tout, c'est ridicule. J'ai appris la musique grâce au reggae, donc j'en fais. Mais faut ramener un petit bout de toi, quoi.
Bah, tu sais quoi, parlons de ça, passons à la deuxième partie. Yes. Le reggae en France.
Oh.
À part si d'ailleurs, est-ce qu'il y a des trucs qu'on aurait oubliés essentiels sur le reggae?
Il y a plein de trucs qu'on a oubliés.
Genre,
mais
vas-y. Hein,
en gros, je t'ai dit, allez, les années 80, c'est le rub-a-dub qui mène en maître. Ouais. Vraiment, le dancehall.
Le rub-a-dub, c'est un style?
Ouais, c'est une appellation, mais c'est vraiment les années 80. On continue toujours sur du reggae, sur les rythmiques de Sly and Robbie, des Roots Radix. Sauf que il y a les mecs qui débitent. Toujours plus dur et tout ça. Il y a une révolution.
T'as un morceau qui s'appelle Miss and Mister Rub-a-Dub d'ailleurs sur ton.
C'est un hommage.
Ouais,
okay. Ouais, c'est un hommage. Ouais. Et en 86, il y a une révolution. C'est le Slang Tang Rhythm. C'est-à-dire que c'est le premier rhythm 100% digital jamaïcain. Okay. Issu d'un petit Casio. Et en fait.
Ah putain, j'ai envie d'écouter ça là, tu me donnes envie. Ça s'appelle comment?
Wayne Smith Under Miss Slang Tang. En fait, ils ont ralenti le rythme. Tu sais, les rythmes de démo. Dans les petits synthés.
Ouais, ouais.
Et c'était un rythme de cœur de rock. Okay. Ils l'ont ralenti. Et là-dessus, ils ont rajouté un petit.
Ok.
Avec une petite basse. Ça a été une révolution en Jamaïque, ça.
Oh, attends,
et la Jamaïque bascule dans le digital avec ce titre.
Wayne Smith Under Miss Slang.
Ouais, Under Tang. Miss Slang Tang, c'est ça. Et ça, c'est le Slang Tang Rhythm. Quoi. Encore aujourd'hui, on joue en son système. Quoi.
Ça, c'est pas du reggae, c'est du rub-a-dub.
Ouais, si, on appelle ça aussi reggae, mais c'est okay. Rub-a-dub, c'est dancehall, tu vois, ça peut correspondre aux trois étiquettes. Et ça a été vraiment une révolution. Ils se sont tous engouffrés là-dedans, et après, ça a fait naître une nouvelle génération de producteurs de génie, comme ceux qu'on produit le Dembo de Chabaranx. Ouais,
qu'on a évoqué dans le reggaeton. Ouais.
Forcément, absolument. Parce que c'est carrément...
C'est la structure du reggaeton.
C'est un des styles de reggaeton, ouais, le Dembo.
Le Dembo, ouais.
Ils l'appellent carrément comme ça. Stilly et Clivy. Ouais, qui avait fait ça l'année d'avant, Sly and Robbie, quand ils ont fait Murder, She Wrote. Après le dancehall, il a continué de se durcir avec des titres. Voilà, ça a été l'avènement des Butch Banton, des Beanie Man, des Bounty Killer. Même si Beanie Man, attention, hein, je crois qu'il commence en 77, Beanie Man.
D'accord.
Son système, il a 5 ans.
Ouais.
T'imagines?
Ouais.
Il peut improviser 4 heures, Beanie Man, quoi. À côté de ça, t'as un retour en force du reggae avec Garnet Silk. Les Christian Soul Jazz, tu vois, genre.
Il y a un truc un peu plus historique, une approche plus à l'ancienne, entre guillemets, c'est ça?
Avec plus spirituel, genre, vous chantez des trucs trop sales, les mecs, nous, on revient avec ça. Okay. T'as une espèce de fusion de ces deux courants qui arrive dans la fin 90, qui s'appelle le New Roots, okay, qui fusionne un peu cette manière de toaster et les valeurs spirituelles rasta, avec un style qu'on appelle le Singje, où les mecs chantent et toastent en même temps. Sizzlak, Appleton, Anthony B, c'est les exemples les plus connus de ça. Et ensuite, t'as toute la révolution reggae. Quand Puma s'est foutu dans le truc avec Usain Bolt et compagnie, donc tous les Elephant Man.
Tu parles de la marque Wonder. Puma, ouais. Ça a eu un impact.
Ah, immédiat. Ah, le sponsoring de Puma a mis une lumière.
Ouais.
C'était pile le moment où Usain Bolt cartonne, c'est le porte-étendard, la Jamaïque, c'est cool. Et d'un coup, Puma met du blé là-dessus, quoi. Même si ça a profité à certains artistes jamaïcains, mais jamais à la Jamaïque.
Évidemment.
C'est Shaggy avec qui j'en parlais qui m'a dit, mais mec, Puma, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, tiens, on a des trucs gratos pour toi. Et il a dit, mais moi, paye-moi. Je porte pas tes sapes pour pas un rond, mon pote. Ils nous ont dit qu'ils allaient faire des stades et ils les ont jamais fait.
Bah, c'est le business, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est là qu'ils percent beaucoup aux États-Unis. T'as des connexions incroyables qui se font entre les États-Unis et la Jamaïque. Beyoncé, Sean Paul. C'est là que Sean Paul éclate.
Ah oui, c'est vrai qu'on l'oublie, lui, mais.
Ouais, Sean Paul. C'est fou, hein. Ouais. Pour un mec qui faisait partie de l'équipe nationale de water polo.
C'est vrai.
Ouais.
Ok.
Et qui imitait Super 4, il en a fait du chemin. Et puis, voilà, de révolution en révolution. Là, actuellement, la Jamaïque, t'as un renouveau reggae aussi, inspiré par les Chronix, les chanteurs comme ça, tu vois, qui se fait, qu'ils appellent déjà Reggae Revival. On est au combien tième revival, on sait pas. Et de l'autre côté, le dancehall jamaïcain a perdu beaucoup de sa spécificité. Aujourd'hui, ils sont dans une espèce de dancehall trap. Okay. Ils imitent un peu le trap américain. C'est un peu moins populaire à l'étranger, tout à coup. Parce que ça perd de la spécificité jamaïcaine, quoi.
C'est quoi le regard des vu parce que le reggaeton, au-delà d'ailleurs de porter en son nom même le terme reggae quand même, c'est pas anodin. C'est la plus grande réussite, y compris commerciale et même d'influence culturelle. Enfin, c'est hallucinant en fait la puissance du reggaeton aujourd'hui.
Oui, c'est devenu une musique.
C'est devenu une musique, c'est la pop. C'est devenu la.
Ouais, mais du coup,
c'est la pop internationale en grosse partie, le reggaeton.
Shaggy,
surtout dans les pays hispanophones où c'est
l'Amérique
monstrueux.
Du Sud et l'Amérique centrale.
Encore une fois, Shaggy, avec qui j'en ai parlé, tu vois, j'ai interviewé plusieurs fois Shaggy, qui est un mec très, très intelligent.
Quel rapport ils ont à ça, au reggaeton d'aujourd'hui, tu vois?
Alors, au début, ils calculaient pas trop.
Ouais.
Après, ça les a un peu énervés, certains, même s'il y a eu des connexions qui se sont faites quand même. Ouais. C'est marrant parce que là, t'as tout un débat. Moi, quand je suis allé en Jamaïque, c'était donc en 2020. Ce qui est fou, c'est que dans le taxi, j'entendais de l'afrobeat. Je me disais, waouh! Et là, tu vois, c'est fou, les Jamaïcains étaient plus énervés quand l'afrobeat a éclaté. Parce que c'est vrai que l'afrobeat du Nigeria, Burna Boy et tout ça, il y a un moment.
Ah, tu parles de l'afrobeat avec
Afrobeats,
un S. Ouais, oui, d'accord, je pensais à Fela Kuti.
Des fois, certains sons de Burna Boy, par exemple, t'enlèves sa voix, tu mets un Jamaïcain dessus, t'appelles ça du dancehall. Hein. Mm. C'est normal, toutes les musiques sont cousines. Et ils étaient plus énervés par l'afrobeat qui cartonnait, alors que... Le reggaeton, c'est une industrie qui génère des milliards.
Ouais.
Tu vois. Et il y en a qui s'énervent un peu dessus, il y en a qui calculent pas tellement, en fait.
Mais est-ce que quand même, globalement, tout le monde assume qu'il y a une forme de filiation?
Ouais.
Après, est-ce qu'on consomme du reggaeton en Jamaïque, en fait? Non.
Ouais, alors c'est de l'afrobeat, oui.
Ok.
Ouais, mais non, reggaeton, ça se consomme pas en Jamaïque. Okay. T'as des mecs comme... justement comme Sean Paul, comme Shaggy, mais qui sont des mecs plus internationaux, qui font des ouvertures parce qu'ils se disent « Il y a un sacré marché là, dis donc !» Tu vois. Mais non, ils calculent pas tellement. Il y a un moment où les Jamaïcains étaient énervés quand les Américains ont essayé de reproduire le truc et qu'ils ont essayé d'appeler ça... comment ils avaient... Tropical House.
Ok.
Là, t'as des producteurs jamaïcains qui ont dit, les mecs, arrêtez. Il n'y a pas de problème, servez-vous, tout ça, mais rebaptisez pas le truc, quoi. Laissez-nous manger, quoi. Tu sais, c'était l'époque où t'avais Rihanna qui faisait Work, Work, Work et tout ça.
Okay.
Ça part d'un sample de Richie Stephens, qui est un producteur et chanteur de Jamaïque.
Okay.
T'avais Justin Bieber qui faisait des trucs un petit peu dancehall. Après, c'est la musique, c'est des cycles, quoi.
Ouais.
Ils ont dit non, rebaptisé.
Ah, Tropical House, ils ont essayé.
Tropical House, ouais, ils ont essayé cette appellation, c'est fou, là.
Ça a autant de rapport en plus avec la house aussi, d'après ce que je comprends, que. Enfin, c'est.
Aucun.
Enfin, d'où ça sort, tu vois. T'sais.
Ouais, d'où ça
bon,
sort.
C'est juste un peu exotique, tropical, quoi. Ouais,
ouais, ouais,
quoi.
Donc, ouais, mais voilà, c'est une musique tellement riche qu'on aurait pu faire un épisode de 18 heures.
Évidemment. Et puis ce serait. On aurait pu en plus s'arrêter aussi que au reggae jamaïcain et tout, mais.
Faut passer sur cette partie.
Bah ouais, il faut parler de la France aussi. Et pour ceux, parce qu'on a parlé un peu de reggaeton, pour ceux que ça intéresse, allez écouter cet épisode sur le reggaeton qu'on avait fait, c'était très intéressant aussi.
Je vais l'écouter aussi, je l'ai pas écouté.
C'est vrai, tu vas voir, c'était bien.
C'était très chouette.
C'était bien.
Ah ouais, je vous crois.
Oui, la France. Alors.
Eh ben, la France
en général.
Parce que c'est une histoire longue, le reggae en France.
Toi, peut-être qu'on peut parler un tout petit peu de toi. Comment tu découvres le reggae? Et t'arrives tard, entre guillemets, par rapport à depuis quand en France tu vois le reggae débarquer.
Le reggae, il perce. T'as des artistes jamaïcains qui commencent à venir deuxième période de 70, quoi. Deuxième moitié de 70. T'as José Jourdan, un mec qui avait une boutique de disques. Bon, forcément, t'as les premiers concerts de Bob. Tu vois qu'on fait un écho incroyable en France. T'as The Congos qui commence à venir. Et t'as le premier son de système en France en 79, à l'initiative d'Hélène Lee. Celle qui a fait le documentaire Le Premier Rasta, qui, je sais plus pour quel magazine elle écrivait, elle fait venir Lone Ranger, qui est un DJ jamaïcain. Okay. Il y a une tradition des DJ avec des noms de cow-boys. Dillinger, Lone Ranger, il y a même John Wayne, Clint Eastwood, pour de vrai, les mecs. Ah, t'as une histoire d'amour entre la Jamaïque et les westerns, c'est, ça leur a parlé, les mecs. Quoi.
Okay.
Et Lone Ranger, il vient, et ce premier son de système, vous savez où il a lieu, les mecs?
Non.
Au bain-douche.
Ah. Qui est la boîte hype.
Ouais, mais toujours à la recherche de hype, quoi, tu vois. Et ça a donné naissance à un mouvement. T'as très vite eu des sons de système underground, parce que c'est 80, 90, c'est encore le pari des squats.
Toi, par où tu débarques quand, toi, là-dedans?
Moi, je débarque en 95, moi, bien après, 95, 16, quand je commence à faire le mur pour aller en son système.
Et tu peux déjà t'inscrire, il y a un réseau qui existe déjà.
Il y a un réseau, mais tout. Il est dur. Ouais. Ah, c'est à la dure. Tu sais, le son de système, c'était tenu principalement par les Antillais, d'ici. Okay. Les Africains aussi. Alors, il n'y avait pas marqué interdit aux blancs, rien de tout ça. Mais bon, si t'allais pas avec deux trois potes un peu balèzes, tu pouvais risquer de te faire dépouiller. Tu vois, les années 90, ça dépouillait beaucoup.
C'était la dépouille.
Les sons de système.
C'était un peu chaud donc comme milieu.
Bah, c'était les endroits où tous les mecs qui rentraient pas en boîte allaient aussi. Hein.
Okay. Il y avait beaucoup de déçus.
Ouais, mais il y avait une énergie folle. Mais voilà, les premiers sont système sur Paris. Je sais que ça se passe du côté de Corentin Cariou, du côté de Colonel Fabien.
Ouais, on voit quel côté, ouais.
Ouais, rue des Panouillots, dans une ancienne chapelle. Et c'est là que t'as des gars comme Supa John, qui chantait sur l'album le premier album de Raga Sonic. Okay. Et déjà là, et il y a un gars qui révolutionne le truc qui s'appelle Pablo Master.
Bien sûr.
Pablo Master en A, en I, en O, qui est le premier, parce qu'au début, il chantait en anglais. Il faisait tout pareil que les Jamaïcains et les Londoniens aussi, parce qu'il y a une énorme scène reggae et dub en Angleterre.
Et la diaspora aussi,
j'imagine. C'était plus facile d'aller à Londres que d'aller à Kingston, quoi. Donc, on s'inspirait beaucoup de ça. Il y a un gars qui s'appelle Ijaman, rien à voir avec le chanteur, qui avait aussi aidé à l'émergence des sons de système. T'as les mecs qui avaient la boutique La Petite Jamaïque au puce de Clignancourt.
Parce que là, tu parles...
C'est le premier à monter une grosse sono. De sonde.
C'est marrant, je t'interromps, pardon, mais parce que tu parles d'un truc très parisien, c'est parce que cette musique, elle arrive quand même par Paris, en France.
Beaucoup par Paris, après, c'est juste que je connais mal l'histoire des différents pionniers dans les autres villes. Ouais. On connaît forcément les noms de Massilia Sound System, qui ont été des pionniers qui mélangeaient en plus leur langue locale. Tu vois, avec le rub-a-dub, je sais qu'à Nantes, il y avait Rasa Boubacar, je sais qu'il y avait Selecta Didé à Lille. Je suis moins fort sur les dates et tout ça, tu vois. C'est pas pour faire du parisianisme. Je connais mal l'histoire de ces villes-là avant certaines dates. Mais ouais, Pablo Master, quand il fait cet effort de chanter enfin en français.
C'est vraiment le premier à ta connaissance?
Ouais. Tout le monde pète un plomb.
Ah, faut qu'on écoute un extrait. Tu te rappelles? C'est quel morceau?
Je sais pas, c'est quel morceau, parce que j'avais.
Du Pablo Master.
Je devais avoir 3 ans. 3 ou 4 ans.
Mais c'est le début des années 80.
T'as qu'à mettre en A, en I, en O de Pablo Master.
Allez, Pablo Master, en A, en I, en O. Ça m'intrigue déjà, rien que le titre.
Bah ouais, t'as vu. Bah là, c'est vraiment. C'est les années 80, quoi.
C'est moi le maître Pablo. Ah ah ah, I en haut, c'est moi le maître Pablo. Ah ah ah, I en haut, c'est moi le maître Pablo. Ah ah ah, I en haut, c'est moi le maître Pablo. Tout petit, j'étais fouineur, on m'appelait Polo. Maintenant, je suis observateur, on m'appelle Pablo. Ouais, c'est toujours passé sur les gens quand ils vont au boulot. Assis dans le bus, ils en est dans la journaux.
La grande bourse, tu vois déjà le mec en reçoit débité avec le DJ derrière.
Donc ça, Pablo Master, tous les mecs genre, moi quand j'étais petit j'écoutais Daddy Yod.
Bah Daddy Yod était déjà dans les sondes où il allait gamin lui, chanter dans les trucs, ouais. Daddy Yod, bah Daddy Yod qui a été connu avec Delbor, qui était une adaptation de Dembo, de Shabba Ranks. Ouais, il était déjà là, Daddy Yod, dans les premiers sondes et tout, au Panoyo et compagnie, c'était alors qu'il avait loin d'avoir un âge légal pour faire ça.
Mais parce que ce qu'on a entendu de Pablo Master là... C'est du reggae. Pour moi, c'était déjà du raga, ça, en fait.
Mais le reggae, le raga, c'est...
Ouais, c'est la même chose.
Alors, bah justement, parce qu'on n'a peut-être pas précisé dans la première partie, pourquoi, à un moment, on parle de reggae, puis on se met à parler de raga? C'est quoi qui le différencie?
Le ragamuffin.
Pour moi, c'est la même chose, mais...
Ouais, le ragamuffin, c'était une appellation. En fait, le mot ragamuffin, c'est-à-dire débrouillard. Okay. Et donc c'était un style utilisé par les mecs en sound system. Ouais, on est des jeunes ragamuffins, on se débrouille, machin. Tu sais, toujours sur fond de débrouille, de trucs un peu anti-système, de gens en marche, quoi. Et on va dire qu'il y a un moment, cette appellation est arrivée, quoi.
En fait, moi, dans ma compréhension.
Ragamuffin, pour toi, c'était plus toasté que chanté.
C'était plus toasté. Pour moi, le reggae, c'était genre instrumental, machin. Okay. Et le ragamuffin, c'était plus justement sur des rythmes comme ça, un peu électronique.
Ouais, voilà. Allez, on peut plus dire ça. Ragamuffin, c'était plus emprunt. Plus se rattacher au son système. Et c'est vrai qu'il y avait aussi les premiers groupes de reggae qui existaient, qui répétaient à un endroit qui s'appelait Parking 2000.
Ok.
Ils répétaient dans une espèce de sous de parking et t'avais des groupes comme Savane.
Savane, ok.
Ouais, avec Christian Moore, t'avais I&I, t'avais Azikmen avec mon pote Yovo. Et voilà, ces groupes-là, c'était aussi les premiers groupes de reggae en France, quoi, en France. Eux, ils chantaient encore en anglais à l'époque pour la plupart. Quelques années après, bah, t'as une petite nénette qui chante avec ses sœurs, les African Princess, en son système, qui nous sort un tube qu'on entend encore aujourd'hui dans les publicités MMA, qui s'appelle Princesse Erika avec trop de blabla.
Ah, trop de blabla.
Et c'est le premier carton en reggae français, ça.
Tu considères ça comme le premier tube reggae?
Parce que Gainsbourg, aux armes, etc.
Après, Gainsbourg. Ouais. Gainsbourg, c'est Gainsbourg. Quoi. Après, Gainsbourg, c'était Ella Vili aussi.
Ah ben oui, et qu'on fait un voyage, un album.
Et qu'on fait tous les deux des albums avec Sly and Robbie.
Et ouais,
encore une fois. Ouais, Gainsbourg bien sûr avec aux armes et tout. Il y a eu des tentatives de reggae dans la pop. Claude François, c'est le reggae qui fait danser ma vie. Il y a rien de
reggae. Ouais, il a fait ça.
Oui.
Attends, j'ai envie de mettre un extrait là.
Non, mais vous avez envie de rigoler.
Attends, c'est incroyable.
Dalida,
ça.
Je sais plus le titre. Dalida et Claude François, ils avaient essayé.
Ah ouais.
C'était pas probant.
Ah ouais, Claude François, c'est le reggae. C'est attends, je mets ça. Là. C'est quoi ça?
Incroyable.
Mais rien à voir, il n'y a rien de reggae dans le truc. Beethoven. Incroyable ou pas?
Bah, hormis qu'il y a de la basse un peu mise en avant.
Je chante toutes les gammes.
Oh la réverbe.
Mais aujourd'hui, c'est le reggae qui fait danser ma vie.
Ah, le fumier.
Ah ouais.
Très bizarre.
Ah ouais.
Il a pas massacré que la moto.
Ah, le criminel.
Ouais, tu vois, tu captes. Pourquoi quand je parle de Princesse Erika et trop de blabla, je dis le premier. À part Gainsbourg, très bien vu, ouais. C'est
ouais, bon,
aux armes, etc. Ça a été une traînée de poudre.
On se le met, folie, ouais. Quoi.
C'est une folie, hein, cet album.
Plus reggae que Claude François déjà.
Ah bah, c'est là par contre qu'il faut respecter Monsieur Gainsbourg quand même, c'est que lui c'est tout de suite ça je ne sais pas faire. Ouais. On va partir voir les meilleurs.
Allons en France de la patrie. Le jour de gloire est arrivé.
Il a racheté les textes originaux du Rouget de Lille
de la tyrannie,
pour l'occasion.
L'étendard sanglant des deuils.
L'idée, elle est ouf.
Elle est très ouf.
La Marseillaise en reggae, quoi.
Ça leur a parlé de ouf. Pour l'histoire, c'est quand il arrive là-bas, il est avec un assistant et ils ont pas encore le pognon.
Ouais.
Le Jamaïcain, il disait, mec, tu payes d'abord et tu vois. Et il prenait l'assistant pour l'artiste et Gainsbourg pour l'assistant. D'accord. Il avait filé un petit surnom déjà, comme les Jamaïcains savent faire. Et arrive le pognon et ok, bon, vas-y, on bosse. Ah, c'est toi l'artiste? Toi, t'es qui, toi, t'as fait quoi? Et là, il leur joue Je t'aime moi non plus au piano. Les mecs, ils disent C'est toi qui as fait ça? Parce que même à Kingston, c'était un tube, ça.
Ouais.
Ils prennent leur calotte et le premier truc qu'ils enregistrent, c'est ça. Et ils adorent ce délire talk over, ça leur parle.
Ouais.
Les DJ,
ouais,
tu vois.
Oui, en fait, c'est ça, ouais.
Et ils disent,
écoutez, tu phrases parlées, ça que tu
c'est
dis
ça.
Ouais, okay.
Et ils disent Mais de quoi tu parles dans le track? Et ils disent Bah, c'est l'hymne national français. Et en fait, je dis Let's take the guns.
Allez.
En plus, il parle du calibre. Tu vois, de la culture cowboy et tout ça. Et là, direct, les mecs, oh, t'es le Barry White jamaïcain et tout. Je connais ton amour pour Barry White.
J'avoue. C'est vrai que c'est dans l'épisode avec Cher dont on avait parlé de ça, effectivement, où je suis pas très Barry White.
Ouais, j'ai vu.
Mais il faut préciser d'ailleurs que aux armes, etc., c'est un morceau, mais c'est aussi un album. Et tout l'album est reggae?
Tout l'album est reggae. Voilà. Il a fait deux albums de reggae. Ils ont fait un live incroyable. Et
on est en 79. C'est tôt, hein. Enfin, pour un français, tu vois, de faire un album reggae.
C'est fou. Hein. Et pif, hein. Franchement, l'album et les deux albums sont excellents, quoi. Peut-être à part, je sais pas, il y a un morceau, moi je comprenais pas quand j'étais petit, il y a un morceau, il fait des prods dessus. Okay. La cuisine jamaïcaine est mal passée. C'est...
De toute façon, Gainsbourg, après, il y a des délires bizarres, y compris humainement aussi, etc. C'est un personnage bizarre, mais génie musical indéniable, quoi.
Ah, il a eu des coups de génie de malade. Ouais. Bon, il a aussi fait des plagiats avérés, hein.
Bien sûr.
Bah. Mais ouais, non, on est d'accord, quel génie, quoi. Quel génie. J'ai pas tellement envie de m'épancher sur certains traits de sa personnalité qui étaient...
Oui, après, il faut le dire. On est en 2024, hein, donc forcément, autre temps, autre mœurs. Hein, mais
Ouais, c'est marrant, on entend souvent le truc « on n'aurait pas pu dire ça à l'époque ouais. ». Dans le cas de Gainsbourg, oui. Il y a certains traits qui sortiraient pas aujourd'hui.
Ah oui, ça sortirait plus du tout.
Mais, et ouais. C'est pas plus mal.
Mais c'est absolument génial ce qu'il a fait, que Sly & Robbie l'a tourné, le fameux moment avec les paras qui ont essayé d'interrompre son concert et tout... Et, qu'ont agressé les Jamaïcains. Et lui, je vais redonner le sens initial de cette hymne. Et puis, il leur chante la Marseillaise. Et eux, ils sont pris dans leur nationalisme. Ils le gardent à vous. Ouais, c'est quand même bon.
C'est vrai, cette histoire?
Ouais, c'est vrai. Ah, mais t'as la vidéo de ça. C'est impressionnant. Hein. Et bon, apparemment, deux jours après, il a dit des saloperies un peu racistes à la radio.
Ah, merde.
Et ça a été effacé, ah, tu vois. Cassé, merde. Mais bon, il était à 4 grammes. Et... Mais ouais, bon, en donc tout
deux,
cas, Erika,
ouais,
trop de blabla.
Erika, oui, ça, il faut qu'on... Ok.
Ouais, je suis digressman.
Non, 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 mais c'est intéressant.
Vous sachiez ça. Eh ouais, ma.
Oh non,
c'est ça, ma.
Ils l'ont fait.
Bah ouais, mais...
Ils nous ont vraiment ruiné le morceau avec la pub.
C'est ouf, hein. Et me dit cet homme-là, trop de trinquins, j'ai donné déjà. Trop de trinquins, il me cause cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. Wow. En ce temps-là, oui, je le dis. La femme prend trop d'assurance. Ah wow. Maman cœur, oui, c'est elle qui. Avec les petits sacs,
le synthé bien d'époque, wow. Tu vois. Il avait été clippé en plus, ça tournait hein, sur M6 et
ça a un gros tube.
Ça a été un gros tube. Hein.
Et ça, c'est pas mal en plus, en vrai, il est bien le morceau.
Bah, c'est quelle année ça?
Ouais, quand je dis bah, les saxos au synthé, ça fait un peu poète-poète aujourd'hui, non, mais derrière le drum and bass et tout.
C'est... Non, mais on sent que c'est pop entre guillemets,
exactement.
Machin, y a pas de problème, mais le morceau est sympa
mais
quoi.
Grave.
Et ça, puis, c'est en quelle année du coup?
C'est en 88. Voilà.
Et ouais, et à l'époque.
J'imagine ça plus récent, tu vois.
Ah non, non, bah, non.
À cause de MMA.
À cause de MMA, il a raison. Et à côté de ça, bah, t'avais déjà des artistes qui commençaient à exploser en sound system. T'avais des sound system comme Hi-Fight, Kwame Nkrumah, qui avait parmi leurs recrues des mecs qui s'appelaient Tonton David.
Ah ouais, bien sûr.
Des mecs qui s'appelaient Daddy Naughty. Ouais. Qui commençaient à émerger, quoi. Et
ah, on n'est pas loin même de Qui sème le vent récolte le tempo avec Kerry James, Daddy Kerry.
Ouais, Raga Jam, où il y avait les Raga Sonic et tout,
ouais,
ça,
bien
quoi.
Sûr.
Bah oui, c'est à l'époque, Big Red, lui, il a déjà fondé Rap Sonic. Je crois qu'il avait un autre groupe avant, je sais plus comment ça s'appelle, mais il faisait déjà un peu rap débit et tout ça. Ouais.
Elle vient de là aussi, la liaison, c'est que.
C'était les mêmes mecs des mêmes quartiers, finalement. Ouais. Qui se croisaient un peu dans les
soirées.
Vous
voulez dire entre les mecs qui faisaient ce qu'on appelait du ragamuffin, qui toastaient entre guillemets, quoi, et les rappeurs purs,
c'était
quoi.
C'était la musique des quartiers, des Tusquois. Je veux dire, derrière, t'avais des villes comme Vitry, comme Grigny, comme Montfermeil, puis tous les ghettos parisiens, quoi. Vraiment, intramuros. Et bah ouais, et après, t'as Diod et Tonton David qui commencent à faire des cartons, quoi.
Bah ouais, là, Tonton David,
quand il. Bah ouais. Rapatitude.
Ouais,
ouais. La première.
C'est un truc qu'on a dit plein de fois d'ailleurs. Rapatitude, c'est qu'il y a beaucoup de raga aussi dessus. Ouais. Quoi.
La première compilation reggae, on va dire, de ces mouvements-là, c'est pareil. Il y a EGM dessus, qui est un des pionniers du rap.
Bien sûr.
Enfin, de deuxième génération.
Ouais.
Donc voilà. Ouais, ouais, il y a beaucoup de raga. C'était ensemble. Quand tu regardais Rapline, l'émission d'Olivier Cachin, t'avais Naughty, t'avais Daddy Yacht, t'avais Azrock. Fais à son âme. Mon Azrock. Et voilà. Et Tonton David déboule et il fait Peuple du Monde et le Blues des Racailles, l'album dans la foulée.
Pour toi, c'est une figure reggae aussi, Tonton David.
Tonton David, bien sûr.
Ah ouais.
Bah, enfin, moi, je fais pas de distinction. Gamuffin, reggae, tu vois. Et après, il a tourné avec les instruments et tout ça, tellement ça a cartonné. Il y avait Yovo, il y avait Richacha à la batterie, t'avais toute l'équipe, quoi. T'avais le Raga Dub Force aussi, qu'on doit citer, qui ont été des pionniers. Mais ouais, voilà, quand David, il arrive, là, c'est un tube. Et puis, Rappel, Peuple du Monde, c'était une déferlante, quoi.
Bien sûr. Oh.
Peuple du Monde, c'est un de ses gros tubes.
Premier gros tube, ouais.
Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert.
Allez, vas-y, on s'écoute ça, Peuple du Monde, Tonton David.
Ouais, un peuple sans la connaissance de son passé et de sa culture est comme un arbre sans racine. Ouais, vient Tonton David et dit yeah. Les règles intelligentes pour contrôler la discothèque.
C'est pareil, tu vois, t'entends le mec en soirée, quoi. Qui... Hey, hey.
L'endemain, c'est... Comment ?
Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Que tu sois dans la ville ou bien à la campagne, sache qu'il y a de nouveaux DJ qui vont chauffer les danses. Avertissement pour tous les sans-voix dans les parages. Ne les testez pas malheureux, il va y avoir de la casse. David au micro sur le rythme, très très relax. Je suis méchant sauvage, j'écrase partout où je chatte. Je donne beaucoup de respect pour tous les boss de la capitale. J'assume tout ce que je dis, je suis un jeune responsable. Prends garde à la tentation, car grand sont les pouvoirs du mal. Tous les politiques ne sont
que oh là là.
Alors là par contre, en termes de prod, un peu plus cheap.
Bah du coup ça ressemble au Casio.
Je sais pas si je suis un peu dur, ouais. Mais tu vois, il y a un côté un peu chipouille, je trouve, dans l'ensemble. Bah,
ça
quand
ressemble
même
au synthé Casio du
ouais,
rendez-vous, quoi.
Ouais, 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 on est là.
Même la prise de voix, tu vois.
Et tout. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, comme quoi, des fois, les tubes, il n'y a pas de...
Non, mais ça, c'est un carton.
Il n'y a pas de recette secrète, c'est un carton absolu.
Par contre, du coup, tu vois, ça a inscrit le reggae comme... Enfin, sans l'aspect spirituel qui a pas pris chez nous, j'ai l'impression qu'il y avait pas de Rastafari au sens.
Si, il y en avait, mais ils étaient, ouais. Ouais, ils étaient dans les squats et
c'était
tout ça.
C'est un peu confidentiel par rapport au.
Très important, le grand public avait pas connaissance d'eux, hein, ouais. Mais ils étaient grave là. Hein.
Parce que là, en fait, on entend le truc et c'est directement, c'est tombé dans la banlieue, en fait. C'est, tu vois, ça a même pas genre essaimé à la campagne, je sais pas
quoi. Ce qu'on aimait
ça.
Avec, en tout cas, avec Tonton David, c'est qu'il racontait nos histoires, quoi.
Ouais.
Il racontait nos histoires.
C'est marrant parce que Daz, t'as parlé de. Des quartiers populaires en gros français, etc. Mmh, on a dit ouais. Aussi du fait que c'était lié à une scène rap commune, etc. Et en même temps, moi j'ai l'impression aussi que le reggae, alors peut-être plus tardivement,
après,
j'en sais rien, mais
après.
C'est aussi une esthétique qui a vécu un peu plus dans les campagnes, etc.
Là, tu pars sur Billy the Kick ou
non,
Trio
mais,
ou...
Mais, non, pas seulement.
Billy aussi, ouais. Ouais.
Et, alors certainement en passant aussi par la figure de Bob Marley, mais ça en fait c'est toute la France et ouais. tout le monde entier qui s'est ramassé ça, enfin qui s'est pris ça. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un moment aussi un truc un peu plus démocratique entre guillemets, tu vois, pas qu'une sociologie autour du reggae, pas que
non,
ça.
Non mais en fait
cas,
attends,
je sais pas.
Non mais quand je dis que ça arrivait dans les banlieues, ils parlaient pas que de la banlieue.
Ça parlait aux mecs des campagnes aussi.
Ouais,
en
ils
fait,
parlaient
ils
pas qu'à la banlieue aussi. Ouais, tu vois, c'était pas du gangsta reggae, tu vois, c'était juste bah les mecs ils étaient tous en banlieue parisienne.
Et pourtant des fois les gars du reggae, c'était plus des voyous que certains
ouais.
gars du rap qui disaient l'être.
Ouais, bien sûr. Bah évidemment.
Parce que pareil, hein, t'avais les figures de Rude Lion, de Daddy Mos qui flottaient derrière tout ça. Parce ouais. qu'ils ont, Rude Lion, il a été connu pour faire émerger Express D.
Expression directe dans le 78.
Puis la mafia Cafré, mais il a fait émerger aussi Ragasonic.
Puis il est reparti au bled parce qu'il avait plus le droit de rester en France et après il est revenu. Voilà.
Ouais, puis il s'est fait assassiner.
Et après, oui, aussi.
Par les armes, quoi. Ouais. Mais bon, bref.
Ouais.
Et
oui, donc c'était, ouais, il y avait.
Mais ça parlait aux gars des campagnes aussi, en fait. Tu vois, de toute façon, regarde,
là
c'est marrant ce
rap,
que tu dis. La première phrase de son couplet à Tonton David, il dit que tu sois dans la ville ou que tu sois
à la
campagne.
Ouais, c'est vrai que le rap était plus tourné
il y a un côté très dur
ouais, sur les ouais, gens
vois,
comme eux, tu vois, alors que
c'est
le reggae
bitume.
C'est un peu plus
et puis il y a moins dans le reggae, j'ai l'impression.
Puis, ben, Tonton David, c'est quand même le blues des racailles, tu vois.
Donc pas le blues des racailles.
Non, mais ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir des jonctions, ouais. Mais pas c'est pas exclusif entre guillemets.
Et puis t'avais quand même aussi un truc, c'est que comme je disais dans les soirées aussi les sons de système et les premiers groupes étaient beaucoup tenus par les Antillais, les Africains qui ramenaient aussi de leur vibe. Parce qu'on peut parler aussi aux Antilles, t'avais des groupes comme Metal Sonde qui ont été précurseurs, comme tu vois, eux qui vont accoucher de tous les trucs derrière Lord Co City qui fait ses premiers titres au pays, quoi. Yannis Odoua, tu vois, aujourd'hui tu vas dans les festivals, des fois des festivals où tu verras même quasiment que des blancs. Et c'est Yannis Odoua qui est sur scène et ça leur parle. Tu vois ? Et qui ont ramené énormément de vibe, quoi. Tu vois ? C'était. Mais au début, ouais, le reggae c'était quand même. Contrôlé entre guillemets par la jeunesse issue des quartiers et puis des qui avaient d'autres origines ethniques, quoi. Tu vois, ouais, quand même, comme je te dis, hein, c'est il y avait des blancs vraiment. Azrock, c'était un mec très crédible. Il a eu un tube aux Antilles en 92 ou 93, produit par des noirs et tout. Azrock, le petit rabouin de Montreuil, là. Tu vois,
il y a plein de trucs. Enfin, on a parlé plus d'une fois dans cette émission le fait que bah, les premières, deuxième, troisième générations, bah, voire les primo-arrivants, se sont retrouvés aussi dans des luttes d'autres peuples. C'est pas ah, leur contexte initial, mais en tout cas, cette figure du dominé et qui exprime sa condition et se retrouver là-dedans, ouais, c'est assez clair que c'est un schéma qu'on retrouve dans plein de genres musicaux,
ouais,
effectivement.
Complètement.
Ouais, tout à fait. Et puis voilà, après le reggae, bah, il a continué de se développer. Et puis il y a eu les cartons qu'on connaît, qui sont ragasoniques, tout cartonné. Tonton David qui a continué à cartonner, ça a été jusqu'aux Victoires de la musique, encore avec mon pote Yovo. Yovo Mbouéké derrière à la Réal.
C'était sur
Un Indien dans la ville. Ouais. Yovo, il a
sa victoire. Chacun sa route, chacun son
avec
chemin.
Avec Manu Katché, il l'avait fait. Ouais. Et puis
là, c'est là où Tonton David, il a fait le crossover total. Il est devenu giga mainstream.
Ouais, il est devenu super mainstream. En même temps, c'était un mec, c'était le gars du bar du coin quand même, ouais. David. Quoi. Quel arsouille, David, paix à son âme. C'était un sacré personnage. Et
en même temps, là, on parle de tous ces trucs pop, presque, en tout cas mainstream, qui arrivent. Et il y a ces scènes beaucoup plus underground, plus roots aussi, j'imagine, qui continuent à subsister.
Qui émergeaient. Et puis, t'as tout plein de groupes qui se montent dans les années 90. Hein, tu vois, là, tu parlais de pop, ils ont fait des trucs pop aussi, mais t'avais les groupes comme Sensimilia qui arrivaient aussi. Ouais.
On les met dans le reggae, Sensimilia ?
Ouais, bah, ils jouent dans les festivals de reggae. Après, ils ont toujours eu un reggae très rock. Ouais. Mais c'était moins chanson au début. Hein. Au début, ils étaient, tu vois, reggae. Voilà, on aime ou pas, mais ils étaient là, quoi. Après, oui, t'as eu des vibes de groupes comme Trio. Et puis ça s'est démocratisé au sens large. Après, c'est une époque où les radios, les télés et les labels étaient encore intéressés par le reggae. Parce qu'ils s'en sont complètement désintéressés à la moitié des années 2000. Il y a eu un truc où d'un coup, les radios, les télés et les labels, le reggae, ça y est, has been.
C'est pas parce que c'était pas devenu un peu une parodie, le style, en tout cas, qui était mis en avant avec les Pierre Paul Jacques, les trucs comme ça.
Ah, fais attention, tu vas avoir des problèmes avec Pierre. Va lui dire en face.
Ouais, moi je dis, MC Jean Gabin, il en a parlé. Voilà.
Mais c'est marrant. Mais Pierre, c'est presque autant bagarreur que Jean Gabin, justement. Parodie. Je sais pas si on peut parler de parodie. Non, mais attention, Pierre, hein, c'est pareil. Lui, il s'appelait Peter Pan dans Sound System. Il est sur la compile Earthquake, la première compile de Raga Reggae. Ouais. Il est là. C'était le pote à Lord Zelko. Qui avait le show sur Nova.
Pas parodie, mais tu vois.
Et enregistré avec les meilleurs en Jamaïque. Hein,
cliché, tu sais, c'est-à-dire.
Et je te dis ça, j'ai jamais aimé le son de sa voix, moi.
Ouais.
Personnellement, mais ça, le son d'une voix, comme il y a des gens, ils aimeront pas le son de la mienne. Ouais. Type pas grand-chose. Comme Barry White.
Ouais, c'est parce qu'il en fait trop.
Ouais, tu trouves ça surinterprété.
Yeah, bébé. Non, mais tu vois, pas parodie au sens drôle, mais des clichés. C'est-à-dire qu'en fait, les trucs.
Caricaturés.
Ouais, les trucs tournés, enfin, ils s'auto-référencent. Finalement, il n'y avait plus trop de. Tu vois, il n'y avait pas de nouveautés, il n'y avait pas de.
S'il y a eu des nouveautés, mais elles sont arrivées encore une fois des Antilles. Quand Admiralty s'est mis à tout cartonner, Sahel et tout, t'avais des trucs, c'était incroyable, c'était ouf.
Mais tu vois, le.
Vas-y, on peut s'écouter un peu d'Admiralty parce que c'est.
Ah bah, tu mets Guadada tout de suite. Hein.
Ouais.
Mets la version sur le Juice Redeem si possible. J'étais en Guadeloupe l'année où c'est sorti, mais t'avais des gamins, c'était leur premier mot, c'était pas papa, maman, c'était Guadada. La terre a tremblé. Il avait réussi à éclipser Sean Paul en faisant sa première partie. Admiralty, qui pour moi est un des meilleurs showman de musique francophone.
Okay.
Tout style confondu. Oh. C'est une bête sur scène.
Baba.
Je t'ai dit, les gamins. Ça, c'était la version album, ça, après. Je pense qu'ils n'ont pas eu les droits du... Il avait fait sur une face B jamaïcaine, et je pense qu'ils n'ont pas réussi à avoir les droits. Donc, ils avaient fait une version avec un... Oh, il y a 40 000 versions de ce morceau. Enfin, on était vraiment dans le dancehall, quoi, des années 2000. Là, c'est marrant musicalement. Je te disais tout à l'heure, t'imagines les mecs en train de toaster avec le gars sur le son reggae qui fait toum, 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 toum. Et finalement, ce rythme, c'est devenu un style à part entière. Toum, 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 toum.
Ouais, mais du coup, ça, on
appelle le bogle.
On n'est plus dans l'esthétique reggae dont on parlait.
Non, mais c'est une grande famille. Après, ouais, effectivement, c'est vrai que, en tout cas, il y a eu un désamour de.
Quoi, c'est un désengagement, genre des maisons de disques, des radios.
Ouais,
de...
totalement. Il y a un moment où ils ont décidé qu'on était has-been, quoi. Alors que, bon, par exemple, ils produisaient du rap ou machin. Je veux dire, le rap peut autant être matière à caricature.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, 100%.
Et il y avait autant des mecs qui s'auto-caricaturaient dans le rap.
Mais est-ce qu'on peut pas... Je sais pas, ils ont... dire, c'est pas genre, il n'y avait pas la place pour deux courants musicaux, tu sais, issus des quartiers populaires, machin.
Il y avait la place. Il y a un moment, moi, je me rappelle, quand tu parlais avec les pros, ils disaient que le reggae, pour eux, c'est une musique saisonnière.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens ont envie d'entendre du reggae quand il fait beau.
Ouais, quand il fait chaud.
Et c'est là que les ventes sont boostées. Tu rajoutes à ça, tournant des années 90, le plus gros son de système, qui était vraiment, encore une fois, le poumon actif des tendances du reggae. Parce que pareil, les Neg Mahon, derrière, qui avait fait un gros carton. Mon pote Yovo encore derrière. Et le mouvement son de système se casse un peu la gueule. Il n'y a plus des aussi gros son de système. Les prix de l'immobilier flambent. Le pouvoir passe à droite. Les budgets de la culture sont réduits. Les soirées partent en couille. Il n'y a plus assez de sous pour louer de la sécu. Ça part en live. Ouais. Ça révèle un peu moins de talent. Tu vois, et le fil commence à s'étirer et t'as les quartiers populaires et le reggae qui commencent à faire limite un chemin à part. Dans les années 90, tu parlais n'importe quel lascar. Il avait, dans sa playlist, il avait un Raga Sonic, il avait un Sizzla ou il avait un Buju Banton ou tu vois.
Ouais, pour moi, c'était très...
15 ans après, il y avait encore un lien parce que les rappeurs appelaient les gars pour faire des refrains. J'ai dû faire 250 refrains pour des rappeurs que je connaissais même pas. Des fois, t'arrives, tu fais un refrain, tu repars. Et puis, autotune quand c'est arrivé, on n'appelle plus les chanteuses de R&B.
C'est
on n'appelle plus les gars du reggae. Quoi,
mais
tu vois, on appelle pas Patrick.
C'est vrai que le reggae et le R&B, finalement, ça a vécu un petit peu le même truc. C'est-à-dire que c'est tombé en désamour.
Ouais. Ouais, et alors que pourtant...
En France, en tout cas. Hein.
Que le reggae, pourtant, comme le métal, qui est complètement boycotté, tu vois. Gojira, quand même, à la cérémonie des JO, c'était une belle crotte de nez. Parce que ça fait quoi, 20 ans que les mecs, ils font ça le compte partout et que tu les vois sur le camion. C'est un truc très à la française, ça. C'est-à-dire, même t'aimes pas ça, il y a un public pour ça.
Ouais.
Enfin, on sait que t'es là aussi pour des raisons pécuniaires. Fais-toi du fric, tu peux.
Ouais.
Et t'as vu le nombre de festivals de métal qu'il y a chaque année? Le reggae, t'as énormément de fêtes. Tu dois avoir plus de 300 festivals de reggae.
Ah ouais?
Okay. T'as un vrai public qui demande ça. Mais c'est vrai que... Et aujourd'hui, par contre, quand tu vas dans le ghetto, tu parles au petit.
Ouais, personne n'écoute ça.
Même le mot, ils ne le connaissent pas pour la plupart. Ça, c'est assez fou pour nous.
Ouais.
C'est assez fou.
Comment t'expliques... notamment sur le traitement médiatique, tu dis qu'il y a un public, il y a une scène, il y a des festivals et tout.
Après, il y a pourtant, aussi, pareil, le téléchargement, quand c'est arrivé, on a pris une grosse gifle. Ouais. Et moi, c'est marrant, je suis un peu la génération entre deux.
Parce que j'ai quand même, moi, quelques figures beaucoup plus récentes, contemporaines du reggae. On avait parlé un petit peu avant l'émission. Naman, par exemple. Naman, c'est très fat. Bigarance, que j'adorerais recevoir dans l'émission, qui en plus lui peut être un peu dans la fusion, tu sais, de plusieurs esthétiques musicales.
Biga, il a créé un son à lui, grand respect à lui, cette espèce de cloud reggae, puis c'est un mec qui s'est posé, quoi. C'est un mec qui met tout le monde d'accord, tu vois.
Ah ouais, ça je savais pas.
Ouais, je pense que, et puis c'est, tout le monde était égaré quand il est arrivé, parce qu'au début, c'était en patois jamaïcain.
Ouais, c'est ça aussi qui est...
Après, sur des prods un peu minimalistes et tout, et puis finalement, il s'est mis à chanter en français, mais quand il s'est accoquiné avec Big Red. Big Red de Raga Sonic, un mec, quand tu suis sa carrière, sacrée carrière, quoi. Et puis il peut poser surtout un des meilleurs MC français, tout court, à mon goût, tout style confondu. Okay. Un technicien. Et même derrière, après, t'as les Generation qui sont arrivés, tu vois. Okay. Bah, Generation, c'est des mecs qui. Ils ont déjà fait de Trianon, des Olympias, des festivals.
C'est quoi, juste parce que c'est quand même des figures. On s'écoute un Naman, un Big Aranx.
De Bink.
Ok.
Qui cartonne grave aussi.
C'est vrai, dubbing, c'est important aussi.
Et ouais, dubbing, faut en parler. Ça cartonne grave. Yannis Odoa, Tyro.
Écoutez, alors, l'un de ses plus gros tubes, apparemment, en tout cas sur Spotify, Anaman, c'est Karma. Voyons ce que ça donne. Je sais pas si tu vois ce
Karma, ouais. Inde maintenant, si je dis pas de conneries.
Absolument, il vient en Inde. J'ai pensé à l'inviter aussi pendant l'émission, mais en Inde c'est un peu loin, quoi.
Essayer de. Voilà. C'est d'être un coup de fil, si tu veux, quand même. Now we are give thanks for being alive, cause I'm feeling right. It's a present from above. Oh, 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 oh. Not all you're gonna better day at one. Thanks for being alive, cause I'm feeling right. Oh, 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 not crying. You
na easy walk, na easy talk, na easy enjoy down the yard.
C'est bien produit ça.
Ouais,
et, la recette est ultra efficace, tu sais, avec. On est quand même dans le vrai reggae. Enfin, en tout cas, moi, en tant que néophyte, je me dis, on est dans le vrai reggae.
Là, on est.
Mais il y, a, tu sais, ce petit ukulélé un peu pop.
C'est ça.
Et, mais
la base rythmique, c'est ce qu'on appelle le one drop. Le drop, c'est, tu vois, le pied quand il tombe.
Ouais.
Caisse claire et rimshot.
Ouais.
Tu vois? Et c'est vraiment ça, c'est un style très populaire à la base. C'est vraiment ce qu'on appelait le New Roots. Okay. C'était très basé là-dessus. Avec des accords un petit peu plus poppy qu'avant. Mmh. Tu vois? Et ouais, bah effectivement, ils savent bien produire, les Generation, les Naman. Ils rajoutent des petites ah, sauces comme ça.
Propre,
ils, ouais, ils savent très, très bien produire.
Enfin, tout de suite, t'es pris, en tout cas.
Même le show, t'arrives. Moi, c'est marrant parce que Naman, il a cristallisé un truc. Il y a toute une génération qui ne connaissent pas spécifiquement quelque chose au reggae, en fait. Ouais. Qui a adoré Naman, qui a représenté un truc pour eux. Ouais. Et toute une génération d'anciens qui n'ont pas vu le truc venir, qui ont un peu snobé au début. Ouais, on ne comprend même pas quand ils parlent anglais et tout. Et puis là, ils voient le gamin remplir des scènes de malade. Et bah ouais, que t'aimes ou pas, ça parle à quelqu'un. Et il a pris du métier entre quand il a commencé et là. Et tu regardes le show sur scène, que t'aimes ou pas, ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule, quoi.
Parce que tu vois, je prends donc des figures comme Naman, Bigaran, bon, on va pas tous écouter, on peut pas tout écouter. Mais discutons. C'est y a aussi la question de ce que peut véhiculer le reggae, c'est-à-dire que on parlait en Jamaïque de ce canal politique, social, voire spirituel. En France, est-ce qu'on a été capable de et puis en plus quand tu deviens mainstream, j'imagine que c'est comme dans tous les genres musicaux, c'est difficile de maintenir en plus, tu vois, cette pertinence sociale et tout. En France, on a quand même ce terreau qui est resté de propos, d'un sens social à cette musique ou pas, à ta connaissance?
Moi, personnellement, je trouve qu'un petit peu moins qu'avant. Okay. Un truc qu'on pourrait... alors moi, je vais m'en prendre à personne. Je trouve que le reggae d'aujourd'hui en France, il est un petit peu mignon.
Ouais.
Un petit peu gentil, à mon goût. Tu vois. Après, c'est voilà, c'est le caractère de chacun. Naman, c'est quelqu'un qui est vraiment très spirituel. J'en parle avec ses amis, ils me disent tous, il est comme ça le mec. Tu vois, donc il est trop dans l'introspection, dans machin, tu vois. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu ce que tu soulignais tout à l'heure, Daz, c'est que ouais, c'est un peu devenu la guerre c'est mal, les méchants c'est les méchants, et les gentils c'est les gentils. C'est vrai qu'on est un peu loin de bleu, blanc, rouge, de Raga Sonic, tu vois, ou de Guisé comme une lame.
Ouais.
Ou de Mumia Boudjamal de Fefe Typical. Tu vois, qu'on était des titres. Danakil a un certain engagement. Ouais. Tu vois, Balik, c'est quand même pareil, que t'aimes ou pas, il a une plume, de Balik. Puis alors, tu les vois en concert, c'est un truc de ouf.
Après, c'est marrant parce que
chantent leurs paroles, quoi.
C'est aussi un truc qu'on constate dans le rap, qu'il y a moins de revendications. Que c'est...
Mais en fait, c'est l'époque.
Ouais,
c'est tu sais, la musique et la société, c'est des vases communicants. Ouais. Là, les gamins, aujourd'hui, enfin... Ils sont nés dans une société où l'ultra-capitalisme a gagné, quoi.
Il n'y a même pas de question, en fait.
Tu vois, nous, on avait... moi, je ne suis pas spécialement coco, mais la lutte des classes, ça reste une grille de lecture super pertinente. Et on avait un contrepoids de paroles, d'opinions, nous, quand on était gamins, tu vois. C'était quand tu faisais un truc capitalo, tu te cachais un peu. Tu vois, là, on est dans une société où... Il n'y a plus de frein, quoi. Ils sont pieds au plancher. Et ben voilà, c'est l'époque qui est là-dedans, quoi. Donc peut-être qu'il y a... Je pense que dans le reggae, il y a deux générations qui ne se sont pas parlées. Moi, c'est fou, j'étais au milieu de ces deux générations. Tu vois, j'ai essayé de tenter de parler, faire le médiateur.
Le grand frère.
Ouais.
Il y a une question qui peut découler un peu de ce dont on parlait, sur la politisation au sens noble de cette musique en France par rapport à la Jamaïque, etc. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une question autour d'une thématique très moderne, en fait, qui n'est pas spécifique au reggae, mais tu sais, ces questions d'appropriation culturelle, par
exemple.
Ah. Si ça te parle,
comme
questionnement, et de se dire...
Ça parle, et c'est un débat qui a eu peut-être lieu dans le reggae avant toutes les autres musiques.
En fait. Ah ouais.
Ah bah ouais.
Vas-y, raconte-nous alors.
Alors, c'est fou, parce que déjà, moi, je suis... Quand tu prends l'exemple de Naman, c'est vachement bien que tu parles de ça, je trouve. Quand tu prends l'exemple de Naman, c'est un peu... Il a représenté, en fait, pour toute une certaine génération et toute une certaine communauté, le blanc qui s'approprie le reggae. Mais c'était malgré lui, ça n'a jamais été sa volonté. Et si tu veux, quand tu parles de Naman, quand tu parles de Danakil, même si, bon, maintenant, il y a Natijan et tout ça, quand tu parles de Bigaranx, quand tu parles de Generation, tu mets tout ça bout à bout et, en fait, c'est que des blancs. Et c'est là où...
Pierre-Paul Jacques aussi, d'ailleurs.
Pierre-Paul Jacques, ouais. Et c'est là où, Ouais, mais Pierre-Paul Jacques, il a fait ses gammes et il était d'une génération où il a mixé. Puis tu sais, quand il a gagné un contrat avec Barclay, Pierre-Paul Jacques, derrière, il a produit la compil Plus de cœur égale soleil. Il a traîné je sais pas combien d'artistes en Jamaïque. Yod et compagnie. Yod, ouais. À un moment où sa carrière avait chuté, il a repris Yod, il l'a emmené en Jamaïque, tu vois. Mais, et ouais, et donc du coup, des fois, tu vois des affiches où il n'y a que des blancs. Et effectivement, nous, notre génération, ça nous fait bizarre. Parce que le reggae, tout le monde était bienvenu, mais à la base, c'était une musique plutôt noire, plutôt contrôlée par les noirs, où tu avais des blancs qui étaient là, qui faisaient des va-et-vient. Mais c'était un truc où, moi, j'aimais la musique pour ça aussi, c'est que, tu vois, le rap, le reggae, ça nous a quand même pas permis de dépasser des fois nos classes, nos milieux.
Ouais, complètement. Ouais.
Le temps d'un son, d'un festival. On se calcule. Tu vois, la musique, sans la musique, ça se trouve, toi et moi, on ne serait jamais parlé. Tu vois. Et c'est un espèce d'embourgeoisement, de gentrification qu'opère dans le reggae. Mais c'est faux, parce que dès que tu dis ça aux nouveaux acteurs, je ne te dis pas que les nouveaux labels et les nouveaux groupes, ils sont là en train de se faire des réunions secrètes en disant « Allez, bon, comment exclure les noirs du reggae ?» Tu vois, il y a des certains noirs dans le reggae qui pensent carrément ça. Tranquille, les mecs. Il y a un truc de... Avant, il y avait des labels, après, il n'y en a plus. Donc, du coup, Internet est arrivé. Toute l'ancienne génération, on a mis très longtemps à comprendre Internet. Cette génération-là, non. Eux, ils ont vite compris les fanbases, les sponsoring, les ciblages, les machins. Ils n'ont pas eu à faire leur gamme en son système ou en concert de machin, comme nous. Tu vois, moi, c'est les premières fois que je prenais le micro en rap ou en reggae. C'était là, tu es toasté, toi. Ah ouais. Tiens. Tu vois, fallait faire tes gammes. Ouais, mais ça nous endurcit. Et puis après, si t'es OK, tu les convaincs et puis tout va bien, en fait. Et
du coup, en fait, c'était plus accessible. C'est ça que t'es en train de dire.
Bah, c'était plus accessible parce que
maintenant, je veux dire.
T'as beaucoup de gamins, en fait, de classe moyenne blanche. Ouais, qui n'auraient pas osé aller. Chez papa, maman, tu sais, quand t'as pas encore tes factures à payer de gamins ou que tu commences pas ta vie à l'usine, bah, c'est un peu plus facile de miser sur la musique. Aussi, des fois, de structurer ton travail. Parce que tous ces mecs-là, c'est des gars qui ont un gars dans leur équipe qui a été faire toute la démarche de professionnalisation, de ça.
Oui, c'est pas à l'arrache.
D'aller chercher les subventions, d'aller machin et tout
ça. En tant que tel, une bonne idée est vertueuse. Si on peut arriver à vivre de la musique, c'est cool.
Tout à fait. Et comme je te disais, nous, dans le reggae, on a aussi cette tradition et son système d'économie parallèle. Quand je dis ça, c'est pas forcément vendre de la bœuf, mais tout le circuit des dubplay, des machins qui sont des trucs qui se monnaient, tu vois. Et des fois, en fait, trop de système D, tu le système D, quoi.
Ouais, parce qu'à un moment donné, il faut quand même passer le
avant,
cap,
si tu veux, le son quoi, système, ouais. C'était le centre de formation, le centre de repérage. Et après, les labels, ils venaient piocher les nouvelles sensations. Les labels ont arrêté de miser dessus. Pile au moment où il y a le téléchargement. Donc, du coup, t'as un moment des espèces de reggae qui ont existé en marge. T'avais un peu le reggae des noirs, le reggae des blancs, les machins... T'avais des petits va-et-vient, mes mignons. Ça commence à s'estomper un peu, ça. Mais ouais, t'as des débats d'appropriation culturelle qui sont énormes, hein, dans le reggae.
Surtout que, pour pas rentrer dans le cliché, moi, c'est pas non plus une thématique que je maîtrise extrêmement bien, pour être honnête. D'ailleurs, Daz, on en a parlé plusieurs fois en se disant, on aimerait bien avoir un expert, entre guillemets, enfin, un chercheur ou quelqu'un qui s'est penché sur cette question pour réellement parler d'appropriation culturelle. Est-ce que c'est un
quel moment c'est de l'appropriation?
Après,
et juste pour terminer là-dessus, juste, c'est parce qu'il y a, l'idée, c'est pas tant est-ce qu'un blanc peut faire une musique qui a été initialement portée par des noirs.
Ça a été prouvé mille fois hein, qu'un blanc peut.
Et en fait, la question, elle est pas tant là. Où est-ce qu'un riche ou quelqu'un qui vient d'un milieu favorisé peut faire une musique qui vient plutôt du ghetto, etc., populaire. C'est pas un problème en réalité. Bien sûr qu'ils peuvent. La question, c'est ensuite quel rapport ils ont à cette culture, à ceux qui les ont précédés.
Ouais, la sincérité.
Qu'est-ce qu'ils véhiculent? Est-ce qu'il y a une compréhension de ce qui les a précédés et de le mettre en valeur à un moment et pas juste tirer la couverture juste à eux? C'est ça.
Est-ce qu'ils font les Elvis Presley ou est-ce qu'ils font les Stones? Ouais. Tu vois, les Stones, ils ont beaucoup pris, mais ils ont beaucoup rendu. Ouais. Elvis, beaucoup moins. Ouais. Tu vois? Ouais, mais il y a un truc comme ça. Après,
c'est ça qui se joue fondamentalement.
Moi, pour moi, dans le débat, ce qui est fou, c'est que souvent ceux qui taxent ces gars-là de faire de l'appropriation culturelle sont pas forcément les mieux placés. Parce qu'en fait, les Jamaïcains, ils disent pas ça. Ouais. Moi, tous les Jamaïcains que j'ai rencontrés, que ce soit en studio, en interview, en radio, là-bas, il n'y en a pas un qui m'a dit « Mec, t'as pas le droit de faire du reggae ». Pas un seul. Donc déjà, on est qui pour dire ça à leur place? Ouais. Pour moi, il n'y a pas plus colon que de parler à la place des premiers intéressés. Il y a quelques Jamaïcains qui ont gueulé, parce qu'au début, c'était quand même eux qui donnaient le « là », donc ils faisaient leur gros festival, tout allait bien. Maintenant, quand il y a des gars qui ont commencé à monter en Europe, bah, les producteurs se sont dit, de concert, hein, se sont dit « Tiens, ça coûte moins cher en fait de faire jouer un mec d'ici avec un groupe que de faire venir les Jamaïcains avec les multiples de billets d'avion, de billets d'hôtel, et puis de les problèmes de visa, de machin. Là, ils faisaient un peu plus la gueule, certains Jamaïcains. Mais les Jamaïcains disent pas trop ça. Ils sont très, très contents, les Jamaïcains, surtout du reggae, d'avoir l'Europe, parce que le reggae est très peu joué maintenant en Jamaïque. Les générations, c'est un peu la musique à papa, voire à papy. Même s'il y a toujours des réminiscences, et ça revient, et il y a des jeunes Jamaïcains qui font du reggae, mais la jeunesse écoute du dancehall trap, écoute de l'afrobeats, quoi, tu vois. C'est comme, je veux dire, tu vas au Nigeria, ils appellent ça afrobeats, tu dis, fais là un petit gamin du Nigeria, pour lui, c'est la musique à papy. Tu vois? Donc, voilà. De l'autre côté, c'est marrant parce que certains blancs du reggae, qui maintenant sont devenus des figures de proue, ou les gens qui les entourent, quand tu dis ça, c'est tout de suite, comment ils appellent ça? Blind color.
Ah non, oui, mais, color blind,
universaliste.
Ah, ouais. Oh, tu parles de blanc, pas, tu as vraiment les yeux mal placés. C'est, tu vois, ma femme, elle est noire. Des fois, elle regarde le truc.
Le vrai raciste et l'antiraciste. Enfin, il y a un peu de trucs. Ouais.
Tu vois, ma femme, elle est noire. Elle vient avec un blanc. Et c'est la première à dire des fois, elle rigole. Elle dit, putain, il y a que des blancs, non? Sur scène et dans la foule, tu vois. Nous, ça te prête à sourire parce qu'on n'a pas connu le reggae comme ça.
Ouais.
Et, c'est pas forcément de la faute à des personnes individuelles, mais une espèce de gentrification qui s'opère. Et on l'a déjà vu dans d'autres musiques quand ça arrive. Tu vois, et c'est marrant. Je prends toujours l'exemple. Je dis aux gars, regarde. Moi, j'habite à Montreuil. On est d'accord pour dire que Montreuil se gentrifie. C'est pas penser à mal quand tu le dis. C'est un phénomène que tu vois.
Il y a personne qui dit « je vis dans un quartier de merde ». Tu vois.
Le reggae se gentrifie quand même beaucoup.
Ouais.
Tu vois.
Ouais, mais alors, attends, moi, la question que j'ai, sans évidemment vouloir te mettre mal avec des artistes ou quoi, mais par exemple, on parlait de Biga Ranx, qui est blanc. Ouais.
Biga, c'est un petit cas à part. Parce qu'il est tellement opé au micro que...
En fait, le truc, c'est que lui, par exemple, tu le disais tout à l'heure, il toste en patois. Jamaïcain.
Ah ouais.
Enfin, il fait plus que ça depuis longtemps, mais
il est
capable de le faire.
Bubble like Perrier en patois. Que je trouve incroyable.
Tu vois, et du coup, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est,
Ah, mais Biga, le premier truc que les gens ont connu de Biga Ranx, c'est une vidéo avec Joseph Cotton.
Ouais, donc en fait, il est
DJ machin, où il se passe le micro en ping-pong, et tout le monde s'est dit, ah, il est OP, lui.
Ouais.
Ouais, lui, c'était un peu un cas à part, quoi. Mais si tu veux, tous à part, ils sont bons et forts. Mais c'est juste que
non, c'est pas ça,
quand
c'est
d'un
que...
coup tu vois des affiches de festivals où il y a machin, que forcément t'as des noirs, les Antillais, les machins, qui ont tenu le truc, et même leurs gamins qui se retrouvent sur le côté, tu vois, à pas jouer sur les festivals, ils se disent « putain, on nous a foutu
dehors ». Qu'est-ce qui s'est passé, ouais.
Et puis même les blancs comme WAM, quoi. Tu vois, qui ont un peu plus du...
Ouais.
Bon, tu l'entends, mon accent.
Non, mais du et coup, c'est marrant parce que ça veut dire qu'on tolère pour le reggae des choses qu'on tolérerait pas dans le rap, ou même, je sais pas si t'as...
Ah bon?
Bah, je me dis, si t'as un blanc métropolitain, par exemple, qui se met à faire du zouk avec l'accent antillais...
Francis Lalanne.
Ah non, avec l'accent antillais.
Non, mais tu vois, avec l'accent antillais...
Avec l'accent antillais, ce serait autre chose.
Tu vois, c'est ça, en fait, moi, je parle pas du style musical où je me dis, la musique, tout le monde peut la faire. Mais c'est vrai que quand tu te mets à parler avec l'accent des Yardies...
Alors, attends, il y a un truc aussi, quand même, d'Az à intégrer là-dedans, c'est que... imiter un accent antillais, il y a tout de suite tout un imaginaire autour du
bien
racisme
sûr.
Qui existait en France.
Oui, mais attends, si
je pense que c'est pas exactement la même chose qu'en français sur l'accent jamaïcain.
Rappelle-toi, alors, non, non, mais toi,
Kalash a résumé dans la chanson du Mwaka.
Mais toi, t'étais pas né. Toi, t'étais pas né. Non, mais 1994 ou 1995.
C'est pas mal en général.
Non, mais Snow Informer.
Ouais.
En quelle année t'as dit?
1994.
C'est vrai que j'étais pas né. Non, mais bien sûr que j'étais né.
Non, mais t'avais 3 ans.
Snow, il était plutôt crédible et respecté. Hein.
Bah, tu l'entends, il y a des.
Il est sorti, et j'ai entendu des derniers titres qu'il a fait ces dernières années, parce qu'il était resté je sais pas combien de temps au ballon. En fait.
Ouais.
Et après, donc, ouais, tu t'appelles ton premier truc, c'est Informer.
Informer, ouais, et après tu finis en tôle. Non,
ouais,
mais,
ouais,
mais ce que je veux dire, c'est que Snow, même Jim Carrey.
Imposteur.
A fait Imposteur.
Ouais,
en
ouais.
disant je suis un blanc qui parle avec l'accent. Parce que si t'écoutes Informer, c'est. Le mec
et
qui
pourtant,
il toste,
t'as eu quelques incursions. UB40, même s'ils étaient très pop, étaient respectés. Tu vois, Ali Campbell ouais. chantait très bien en Angleterre. T'as un gars qui s'appelle David Rodigan.
Ouais.
Qui est dans ce délire de son système. Tu le vois, c'est un vieux papier anglais. Très chic et tout. Il a été animateur de la BBC pendant plus de 40 ans. Et lui, c'était les premiers non-jamaïcains à se clasher avec des Jamaïcains en son système contre Barry G. Attention. Et tu vois ouais. Papy, il arrive, hello. Et il te joue des morceaux, tout le monde fait waouh. Tu vois, t'as toujours eu des incursions. T'avais un chanteur qui s'appelait Dominique, qui avait fait des grosses apparitions dans les festivals où ils avaient adoré. Non, les Jamaïcains, ils aiment la nouveauté.
Ça veut dire que le slang jamaïcain, en fait, c'est une composante de la musique. C'est-à-dire que eux, ils ont pas l'impression que quelqu'un joue un rôle comme nous on pourrait l'avoir si d'un seul coup un mec du 16e se mettait à parler comme un type qui a grandi en banlieue, tu vois. Nous il y a tu sais ça ça prend le côté social, tu vois, le côté vraiment là pour le coup, je me l'approprie. Et je me posais la question justement en entendant des artistes blancs chanter comme des jamaïcains en anglais en plus, tu vois, avec le slang et tout, où tu te dis est-ce que c'est une question? Et en fait, voilà, vous êtes en train de me dire que concrètement non, parce que ce truc-là, c'est une composante de la musique. Ouais. C'est pas compris comme une.
C'est marrant. J'ai te raconté une histoire sur mon titre d'avant, sur mon album d'avant. J'avais fait un morceau qui s'appelait Sankara, sur Thomas Sankara. Mm-hmm. Moi, pour la simple et bonne raison que j'ai un copain avec qui j'ai grandi. C'était son neveu. Mm-hmm. Pour moi, Sankara, c'était le nom de mon pote. On s'est dit basket ensemble et tout. Maxime, big up à toi. Et en fait, j'ai découvert que son oncle, c'était le Che Guevara africain, tu vois. J'ai fait un titre là-bas parce qu'en plus, j'ai chanté au Burkina Faso en 2006. Les mecs m'ont kiffé, m'ont dit, fais un morceau sur lui. Alors déjà, dans ce délire d'appropriation, moi, il y a des gens un peu estampillés Black Pro ici qui m'ont dit, t'as pas le droit de chanter ça. Moi, la première question, j'ai dit, c'est des gens de sa famille, ils m'ont dit, fais-le. Comment t'es plus légitime que eux pour dire ça? Ok. Ensuite, Sankara, c'était un mec qui était... Enfin, il parlait dans le clash des dirigeants, mais il disait toujours que il y a pas de garde des peuples.
Ouais, pour lui, c'est l'idée.
Voilà.
C'est ça qu'il a posé.
Et dernière question, est-ce que je l'ai mal fait? Si je l'ai mal fait ou j'ai dit des conneries, ok. Mais sinon, pourquoi j'aurais moins le droit que Didier Awadi, que machin, que au contraire, je suis blanc, des gens peuvent comprendre. Bref, sur ce rythme, un jour, il y a un mec qui s'appelle Président Blonde, qui est un vieux DJ jamaïcain qui passe au studio. Ils avaient préparé des redims, mes potes et tout, il en veut pas. Il entend mon titre. Il dit, je sais pas de quoi il parle, mais je sais que c'est sérieux. Je veux chanter sur ce redim-là. Donc il m'appelle, il me dit, tu t'autorises, Président Blonde, à chanter sur ton truc? Je dis, Président Blonde? Mais grave! Et il a posé un morceau qui parle des différents accents jamaïcains. S'il n'y a pas un accent jamaïcain.
Ouais, bien sûr.
Des fois, les mecs, il était un mec de la campagne, de telle partie de la campagne, il parlera pas comme un mec de Kingston. Et puis chaque quartier a son slang, comme chez nous finalement.
Ouais.
Donc moi déjà, quand j'attends ce débat de l'accent jamaïcain, lequel?
Ouais, y a pas.
Moi,
a
quand
pas
on me dit, tu vois, quand on me dit non, faut pas chanter anglais, je fais ce que je veux. Ouais, mais l'accent français en anglais, c'est dégueulasse. Pour toi, en fait, parce que c'est un complexe franco-français.
Toi, t'en rigoles dans French Kiss, d'ailleurs.
Moi, j'en rigole.
Le nom vient de là aussi, du côté, vas-y, je suis franchouille. Enfin, je suis pas franchouillard, c'est le bon terme.
Est-ce que quelqu'un a reproché un accent, tu vois. Est-ce qu'on a reproché à Alpha Blondy son accent ivoirien en anglais? Quand il chante Jérusalem? Personne. Pourtant, il a un accent ivoirien. Est-ce qu'on reproche à Louis Armstrong? On reproche à Louis Armstrong d'avoir un accent ricain quand il reprend La Vie en rose. S'en fout. Tu vois, je pense que nous, dans le délire de l'accent, en plus, on a un truc de,
oui, un truc particulier,
de complexe avec les musiques anglophones.
Ouais, clairement.
Et je rajouterais juste un truc à votre discussion, c'est que j'ai le sentiment de l'extérieur, tu te dis, Jail, si tu valides le truc, c'est que il y a quand même globalement une recherche de validation de la Jamaïque lorsque tu te lances dans ce délire, tu vas souvent sur place, que tu rencontres les musiciens sur place, etc. Ça change quand même un peu le rapport au truc.
C'est ça, dans l'hip hop, ça n'existe plus, ça.
Personne fait ça.
Tu vois. Et donc tu vois, même si tu pourrais te dire, il les singe, mais en fait le mec, il est allé là-bas, il l'a fait avec eux, il a appris avec eux.
Il y a une démarche.
Vas-y, c'est pas la même chose, quoi.
Je vais t'expliquer un truc, c'est quand t'arrives à Kingston, alors t'es un touriste. Tu vois, t'as ce rapport de tu représentes malgré toi un pays. Et pour eux, bon, t'as de l'oseille. Tu peux raconter de toute façon, tu veux dire, mais non, mais j'ai pas d'argent. Ah, t'as payé ton billet d'avion comment? Tu vois? Donc, bon, voilà, t'as toujours des mecs qui essaient de te faire un peu les poches et tout. Mais dès qu'ils apprennent que t'es là pour la musique, tu deviens tout de suite un autre type de touriste. C'est une religion là-bas. Et je me rappelle, moi, quand j'étais parti avec mon pote, je lui ai dit, tu vas voir. Quand tu vas appuyer sur play, sur tes redims, tu vas voir les mecs qui vont changer de tronche. Et à chaque fois, c'était le même coup. Okay. Et le fait que tu comprennes et respectes leur musique, ils respectent gravement ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Les Jamaïcains, ils sont pas fermés comme nous, les Jamaïcains. Tout comme moi, pendant les années 2000, j'allais beaucoup chanter en Angleterre. Au début, je chantais des fois des titres en français où ils ne comprenaient rien, les mecs. Dans des bars ou des fois des petits sons et tout. Les mecs m'ont toujours très bien reçu. Parce qu'ils disent, il y a une vibe, il y a une énergie qui est OK, quoi. Effectivement, si j'étais arrivé en disant « Poulat bamboklat, naman !» Ils auraient... Il veut quoi, lui? Et c'était mes potes jamaïcains, en fait, qui me disaient là-bas, ils me disaient « Mais pourquoi vous voulez tout faire comme nous ?» Nous, on rêve d'aller à la Tour Eiffel, boire du champagne. Alors j'avais beau leur dire, tu sais, j'habite pas à la Tour Eiffel, frérot. Ouais. Mais comme quoi, tu vois, l'exotisme, ouais, c'est une vue de l'esprit, ça existe pas.
Ouais, en fait, la France, c'est exotique pour eux aussi.
Bah ouais, ouais. Bah, regarde, ils viennent tous à Paris pour dire, hey, I've made it. Ouais. Tu vois, c'est, bah, Paris, c'est devenu un grand fond vert ouais, pour les gars qui veulent dire j'ai réussi. Ouais, tu vois, c'est rigolo, quoi. Et le dernier truc sur cette histoire d'appropriation culturelle, je vais te citer un autre exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un truc des Reggae Awards. Okay. Ils ont voulu, je sais pas si c'est les Flammes qui leur ont inspiré ça, ils ont voulu faire les Awards Reggae.
En France ou...
En France, ouais. Bah, les gens qui étaient derrière ça, encore une fois, c'était Ragga Dub Force, tu vois, Mosaïa, les mecs de Grigny, de Montfermeil, qui ont toujours été un fer de lance des sound systems, qui ont lancé énormément de monde. Et les lauréats, et les nominés, était très Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Kanaky, tu vois. J'imagine que derrière ça, il y avait une volonté aussi de se dire, plutôt que de partir en clash, on va organiser aussi notre événement et puis remettre des gens qu'on aime et des acteurs de ces communautés-là sur le premier plan. Et ben, des pros du reggae, entre guillemets des blancs, qui sont les premiers à dire, ouais, mais pourquoi vous calculez ces histoires de noirs, de blancs ? Les mecs m'ont dit... Ah ouais, t'as été à la cérémonie, oh, ils auraient dû appeler ça la cérémonie des Caraïbes et tout ça. Et j'ai dit, bah alors, je croyais qu'il n'y avait pas de noir et de blanc, les mecs. Mais finalement, quand c'est vous qui vous retrouvez un peu à l'écart,
ah,
vous voyez ce
gueule
que ça fait. Ouais. Faites-moi les malins, là. Tu vois, après, c'est beau, ça va pas si loin, tout ça. C'est des débats qui sont en train de se calmer aussi.
Ce que je propose, c'est, on va faire une toute dernière partie, parce que ça fait quand même longtemps là, qu'on enregistre.
Jacques, depuis 4 heures, là.
Ouais,
là. Ça fait longtemps.
Ça commence à faire pas mal. Ouais. On va faire une toute petite partie, on va parler un peu de tes différentes activités. Et en mode transition, parce qu'on a parlé de Sankara, ton morceau.
Ah ouais, cool.
C'est goût de ça.
Ah bah grave.
Allez. Jaïl Sankara.
La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancien Haute Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel.
Oh, on peut pas l'oublier. On peut pas l'oublier. On peut pas l'oublier. Sous son béret rouge et son habit vert. Et pourtant d'habitude je suis pas fan des militaires. Il quitta le ministère une première fois, fini en tôle la deuxième fois. Le baptisa sa terre, la terre des hommes inter. Lors du coup d'état, le 4 août 1983, on n'oubliera pas que Thomas Sankara, président du peuple, président des pauvres, attaque jusqu'à la mort. Non, 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 on n'oubliera pas que Thomas Sankara, le président des pauvres, à tête jusqu'à la mort.
Et bien ce morceau.
Ouais, chouette, merci. Hein. Ouais, ouais, bah t'as vu, musicalement, c'est 100% live. Hein, avec mon pote Dan, à qui je fais un hommage sur cet album, Dan Gorgon, qui a joué la basse. Puis ouais, dessus, t'as vu, il y a du trombone, trompette, il y a du mélotron. Ouais. Le mélotron se mélange, on a réussi à mélanger un peu le mélotron, les cuivres dans le refrain. Ouais, il y a du monde, hein. Il y a du monde, c'est cool, on s'est éclaté à le faire cet album à la The Boys Factory. C'est marrant, quand on a fait cet album, on l'a fait de...
Parce que c'est issu de ton deuxième album, c'est pas sur...
Ouais, ouais,
non,
c'est sur ouais. De la prise de son jusqu'au mastering, on a tout fait à The Boys Factory. Donc on pouvait bosser d'une manière où des fois, on faisait un espèce de bout de mastering sur le track pour voir comment réagissait le mix. Puis on pouvait revenir sur le mix et machin. J'étais venu moi en tête dans ce studio, je dis à Serial P, ouais moi je voudrais un album qui sonne comme ça, comme tel label. Il me dit, bah va voir tel label. Je dis, mais t'as conscience des fois que, tu sais, nous on veut te payer aussi, t'es le plus grand des diplomates toi. Il me dit, non, mais c'est une manière de dire, est-ce que le but c'est pas de trouver son son?
Ouais.
Je dis, ah ok, ça s'écoute. Lui, c'est un espèce de vieux Manitou, il bricole lui-même des micros, des reverbs à plaques et tout ça, ma boule. C'est un geekos. c'est le grand-père des geeks, lui, tu vois.
Est-ce que, justement, toi, t'as l'impression... t'as un savoir autour du reggae, on l'a bien vu là tout au long de cette émission. Tu connais à la fois les acteurs...
Encyclopédie. Ouais, l'almanach.
Tu penses que ça nourrit d'une certaine manière quand tu fais des sons comme ça, tu vois que
ça nourrit, c'est-à-dire.
Bah, et je sais pas, tu vois, dans l'exigence musicale, dans les paroles aussi, j'en sais rien, tu vois, de dire, bah vas-y, tout savoir que j'ai aussi emmagasiné en rencontrant tel mec, machin et tout.
Ah ok, tu parles aussi. Ouais, je pense. Ouais. Concrètement, ouais, je pense. Bah, tu vois, quand tu citais un peu quelques noms que j'ai interviewés, tous ces gens-là m'ont légué quelque chose de savoir. Et tu te rends pas compte au bout des années que, en fait, ils t'ont fait un masterclass. Je veux dire, quand t'as vu Razal beatboxer dans ton micro à toi, puis qui t'a expliqué qu'il a fait tel truc, quand derrière t'as parlé avec Machel Montano, qui te donne aussi une vibe, tout ça, forcément, tout ça, ça nourrit ta musique derrière.
Ça peut pas te paralyser même.
Non, parce que, tu sais, moi, depuis toujours, je connais pas le solfège, je savais même pas que je ferais de la musique quand j'étais gamin. Moi, j'ai vraiment cave en fumée, freestyle, micro, bam, ça fait réagir mes potes. Moi, c'est une époque de ma vie. Je te disais pas tout à l'époque, au lycée. On était dans la merde, mon frère, à cette époque. La vie était dure, tu vois. Et t'as l'impression de valoir quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai commencé. Mais quand j'ai fondé mon premier groupe avec des potes, ils me disent, ouais, tu la vois comment, la grosse caisse? Je dis, là, quoi? Je sais même pas ce que c'est, une grosse caisse. J'ai appris la musique sur le tas, comme un pirate. J'ai toujours eu conscience que j'étais plus un artisan qu'un virtuose. Mais il n'y a pas de mal à ça. Je veux dire, c'est comme, je sais pas, dans la bouffe, t'as des mecs, c'est des chefs étoilés, et t'as des gars, ils tiennent un petit boui-boui, ils maîtrisent trois plats, mais putain, ils les font bien, et ils donnent du bonheur aux gens. Tu vois? Donc,
t'as jamais eu de complexe, en fait, de se dire, même de rattraper le truc a posteriori en mode,
Non, il y a des moments où, par exemple, quand je me suis retrouvé en studio avec Morgan Heritage, tu vois, Morgan Heritage, qui est une famille mythique du reggae, enfin, qui était, c'est leur leader, est décédé, il y a quelques mois. Okay. Tu vois, leur chanteur-leader, c'est une fratrie. C'était un peu les Jackson 5 du reggae, qui sont des vocalistes. Eux, ils ont la science du reggae, du gospel américain, du steady jamaïcain qui avait grandi en Amérique. Ouais, quand t'as ces mecs-là en studio, ils ont gagné 2 Grammys, eux. Pouah, comment ça chante? T'es là, j'ai jamais vu ça. Enfin, Fada Freddy ou lui, en studio, c'est les mecs qui m'ont plus traumatisé, ou Luciano. Ouais, et ben là, j'avais l'occasion de faire un morceau avec ces mecs. Je savais que j'avais pas un morceau assez pertinent à proposer pour qu'il fasse un truc et que ça paraisse pas genre, ouais, les mecs défoncent et il y a le bricoleur derrière. Là, j'ai passé la main parce que t'es sûr que tu veux pas. Ouais. T'imagines, j'avais cette opportunité. Je dis, ouais, mais ça va être du temps de foutu en l'air, de l'argent foutu en l'air. À l'arrivée, le track, oui, ils vont adorer sûrement quand il chantera Pita, mais parce que, et pourtant, j'ai collaboré avec des gens qui chantent mieux que moi. Hein. Ouais. Mais j'étais prêt et j'avais une vraie vision artistique sur tel track, tu vois, dire vas-y, tiens, toi tu poses là, tu poses comme ça. Et tu vois, quand je chantais Queen Omega il y a 10 ans, t'imagines quand on va dans la cabine, c'était juste après l'avoir interviewé pour Party Time, à ma première de Party Time. Je remplace l'animateur et juste avant l'interview, je dis tiens, j'ai un petit son là. Elle écoute, elle me dit ouais.
Ça a nourri aussi ton activité de journaliste, ta musique, en juste pouvoir choper les mecs en fait, c'est ça, tu vois.
Tout à fait.
Ça, c'est étonnant.
Ah, c'est bien. C'est-à-dire, il profite de l'opportunité. Ben ouais.
Général Lévy, par exemple, lui, je l'avais attrapé au culot. C'était à l'époque de MySpace encore. Et il venait de monter à MySpace. Je me dis, mais c'est un faux, c'est lui, il a pas assez de fans, c'est pas possible. Il venait de le monter. Et j'envoie un message. Hello, are you the real General Lévy? Yeah, man. Je dis, ok, je suis bientôt en Angleterre, je voudrais te proposer un track. Il me dit, ok, let's do it. Il me donne son numéro. General Lévy, le pape de la jungle, là. Ok, on va en Angleterre, je le rappelle et tout. Puis quand ça me parle les tarifs, je lui sors les violons, help me, I'm a ghetto youth et tout. Et finalement, le vieux, il est OK. Mais ouais, c'est marrant, j'ai encore des nouvelles de lui. Pff, quel mec.
Mais donc, c'est intéressant ce côté.
Quand j'interview les mecs, bah, Slane Robbie, c'est grâce à des interviews. Queen Omega, finalement, c'est grâce à une interview. Ouais, ça nourrit des connexions.
Parce que le réseau, c'est un truc important dans la musique. Et en fait, c'est juste, c'est derrière ma question, et c'est parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont amateurs, certains semi-pro, certains pro aussi. Certains cherchent à développer une carrière. Et il faut toujours insister sur ce truc de, en fait, vivre tout de suite très rapidement de sa musique, c'est pas donné à tout le monde.
Non.
En vrai.
Non.
C'est même minorité.
Soit t'es le fils de je sais pas qui ou.
Et en vrai, oui. D'un point de vue économique, c'est une évidence qu'il faut faire des trucs à droite et à gauche. Mais même, en fait, parfois, on peut trouver des moyens de nourrir son activité artistique en faisant des trucs un peu différents à côté. Soit plus technique, soit plus culturel ou informatif comme journaliste. Et c'est toujours des options à prendre en
Il y a plein de chemins. Moi, je dis toujours, c'est une aventure, quoi. Et après, moi, j'ai fait tous les tafs de merde du monde à côté. Hein. J'ai travaillé dans des fonderies, j'ai livré la farine, j'ai travaillé dans des usines en moins 28, je fais agent de sécu. T'imagines, il y a des jours, je fais un concert, le lendemain, j'interview une spectadec, et après je vais faire une nuit de sécu devant une grille. Je dis, carte d'invitation, s'il vous plaît. En tout cas, pour l'ego, c'est bon. Tu vois, tu t'apprends à...
Ouais.
Tu prends ton ego, tu le malaxes, ouais. Tu joues au ping-pong avec. Et oui, oui, tout à fait. Après, tu c'est Wally Badaro qui avait dit dans votre émission qu'il faut savoir cultiver la chance.
Mmh. Ah oui.
Je suis d'accord avec lui. Il y a différents niveaux de chance.
Alors, tu sais que tu verras dans l'épisode de Cérone, il dit à peu près la même chose avec le train. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dit...
Toujours être sur le quai de la gare.
Exactement. Il dit, j'ai passé ma vie sur le quai de la gare. C'est-à-dire qu'il y a dès que le truc passait, je l'ai chopé. C'était un de ses talents. Il dit, pour lui, c'est dès qu'il y avait le truc, je le prends, je suis là. Parce que je rate
pas
ma chance.
Parce qu'il disait, si t'attends ton train, il viendra jamais. Donc il faut prendre le premier train qui passe.
Par contre, ouais, moi, j'ai toujours eu ça. Moi, j'ai toujours été culotté. Et puis, tu sais, moi, quand je parlais avec des gars, tu peux être. J'ai parlé avec des monuments de la musique. Moi, je suis quelqu'un. Tu fais caca comme tout le monde, frère. Même si je suis absolument fan de ta musique, je vais te parler normal de chez normal.
Ouais, ouais, ouais.
Et je pense que les mecs, ils aiment bien ça. Surtout quand, tu sais, quand t'as un rapport faussé par la célébrité, les gens lambda. Bien sûr. En fait, tu sais, des mecs qui viennent dire, j'adore ce que tu fais. Ils ont dit,
ils s'en foutent, ouais.
Bah, ça fausse tout de suite le rapport.
Ouais.
Donc ils sont là, bah, merci et tout. Ils cherchent comment s'esquiver la plupart. Si tu parles normal, et moi, souvent, les interviews, je les commence en leur racontant des trucs à nous. En mode, pourquoi il me raconte sa vie, lui? Bah ouais, mais c'est intéressant. Parce que je nous mets sur un pied d'égalité en tant qu'humain. Et là, on peut peut-être aborder les choses d'un œil nouveau. Et tu te crées des opportunités comme ça. Et c'est vrai que, ouais, même si j'ai jamais complètement bouffé de la musique, putain, moi, t'imagines, j'ai commencé la vie active à 18 piges à l'usine. J'en ai bouffé des usines et machin. Mec, j'ai chanté à Jérusalem, j'ai chanté à London, j'ai chanté à Pointe-à-Pitre, j'ai chanté en Kanaki, j'ai chanté à Ouagadougou, j'ai bossé dans un studio à Kingston. J'ai traîné avec les Mardi Gras Indians à la Nouvelle-Orléans. Des trucs improbables. Tu vois, il y a des fois des mecs, tu sais, qui sont plus établis que moi, qui disent, putain, mais t'as passé du temps avec un tel. Arrête, tu dis, bah ouais.
Il y a un truc génial aussi que tu dis dans cette continuité, c'est pour revenir à cette histoire de journaliste, tu dis, ça m'a permis de rester connecté à la musique, même quand j'avais pas le temps d'être artiste.
Ouais.
Ça, c'est aussi intéressant.
Ouais, c'est intéressant.
Ouais. Bah ouais, c'est qu'il y a des moments où bah, la vie, il faut bouffer et tout. Et
ouais, ouais.
T'as soit pas le temps, soit pas l'état d'esprit simplement pour te consacrer à la musique, parce que t'as d'autres trucs dans la vie, bien tu sûr. Vois. Et
ouais, ouais.
T'avais quand même cette activité où t'étais quand même dans la musique, quoi. Ça
je restais dans l'énergie musicale, ouais. Je restais connecté. Ouais, tout à fait. Ouais, 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 mais ça m'a vraiment permis de rester connecté. Et puis, je trouve que c'est très intéressant pour un artiste de se mettre de l'autre côté. Bah, vous êtes Zikos aussi, en fait.
Oui.
Vous voyez ce que ça fait.
Ouais.
C'est quoi ce oui de.
Oui.
Il a le syndrome de l'imposteur. Ou...
Ouais. Plus oui en dilettante, mais.
Artisan.
Ouais, complètement. Ouais.
Le bal des artisans. Mais l'artisanat, c'est bien. C'est chambé l'artisanat. Eh ben, ça fait du bien aussi d'interviewer des gars. Et puis, tu sais, avec un ton chambé en plus pertinent. Tu vois. C'est très intéressant à faire, je trouve, humainement.
Et inversement, c'est pas requis, mais mine de rien, quand t'interviews des artistes, des musiciens, des mecs de la musique, toi-même, de faire un peu de musique, bah, ça va t'amener à quelques questions bah oui, que d'autres n'auraient pas posées.
Oui, bah,
ça va dans les deux sens.
Ça t'évite de commencer l'interview par qu'est-ce qui t'inspire?
Ouais.
Bah, la vie, mon pote! Non, mais tu vois?
Non, c'est mutuel, c'est-à-dire que le journalisme t'a permis de maintenir aussi une forme d'attrait pour la musique et tout.
Ça.
Mais aussi inversement, le fait de faire de la musique, bah, parfois ça te rend plus pertinent en tant que journaliste.
Oui, parce
aussi.
Que tu sais ce que c'est, tu connais à peu près toutes les étapes. Tu sais ce que c'est de commencer, tu sais ce que c'est de jouer devant une foule qui est pas là pour toi, de jouer devant une salle vide, de jouer devant une salle comble. De faire un tabac, de galérer en studio, de réussir en studio. T'es passé par toutes ces émotions-là. Et forcément, tu peux avoir des feuilles un peu plus développées qu'un simple mélomane, tu vois.
Sans que ce soit absolument nécessaire. Parce que sinon, on tombe dans le syndrome de, tu sais, des footballeurs. Tu sais, t'as déjà joué au foot, toi? Bah non, bah alors tu peux pas parler, tu sais.
Ouais.
Non, vas-y, t'as le droit aussi d'être journaliste foot, tu vois. Sans,
bien sûr. Ouais.
On est
d'accord. Mais ça peut être une plus-value.
C'est quand même mieux que tu tapes la balle, quand même.
Et oui, et c'est une plus-value. C'est clair. Ça apporte un petit truc, quand même.
Ah ouais, on est d'accord. Hein. Mais ouais, c'est tout ça pour dire, c'est une magnifique aventure, moi.
Et puis,
cavé, moi.
Tout ça pour dire aussi, on peut terminer là-dessus, c'est d'aller écouter French Kiss.
Ouais, les gars. Ouais, et c'est marrant, tu sais que toutes les interviews que je fais, j'oublie toujours de faire ma promo à la fin.
Oui.
T'inquiète, on est là.
C'est cool d'ailleurs, pendant qu'on le monte là, un dernier petit extrait quand même de French Kiss, parce qu'on t'a pas écouté en anglais. On a dit le fait que t'avais aussi ton accent français.
Mets le titre avec Marina Pistole.
Et ben, c'est ce que je comptais faire. Mission Mister Rubadab.
Quel télépathie.
Allez, c'est parti.
Hallelujah, church.
Ça, c'est pas moi.
I'm your visiting Pastor Brown.
Ça pourrait.
I would like to say hello, brethren and sisters of the church, in the most almighty rhythm and the spiritual bass. We present to you Mr. and Mrs. Rubadab.
We miss a Mr. Rubadab. Sha-la-la-la-la-la-la.
Sha-la-la-la-la-la-la.
We miss a Mr. Rubadab. Sha-la-la-la-la-la-la. When me say, I used to love Miss Rock and Roll and Miss Pop Music, but now it's gone. I don't really know Miss Calypso, but with Miss Rubadub, I like it so. When I made this Miss Girl, she was on stage, speeding crazy lyrics from the face of my friends. Even though I was shy, I came in the freestyle, and I just said, hi, I'm Mr. Rubadub.
Attends, là, c'est un tout petit peu de il y a Marina qui va chanter. Marina, qui est une chanteuse italienne qui vit en France et très réputée dans la scène dub. Ouais, quand même.
T'as le riddim, tu veux.
T'as vu
oh. Et très rock d'ailleurs, hein, dans l'esprit en vrai. Hein.
Très rock, ouais. Ouais. Avec un pattern limite plutôt même rap. Tu vois. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, à la base, il y avait juste une boucle. Juste une boucle et. Même Marina, quand je lui présente, elle me dit frérot, il n'y a qu'une boucle. Alors elle est bien, mais je me projette pas. Je dis t'inquiète. Et j'ai fait une pré-maquette. Et je lui dis, toi, chante comme Altea et Donna, Uptown Top Ranking, tu vas kiffer. Et après, j'ai été avec Scaramucci, qui est le Jamaïcain qui fait le pasteur au milieu du morceau. Ouais. Je lui dis, tu veux pas me faire une petite intro, tonton, comme si tu célèbres un mariage et tout. Il m'a fait ça one shot direct. Contre un paquet de clopes que je ne lui ai jamais payé. Pardon!
C'est la débrouille.
Voilà. Bon, Jahil, merci beaucoup. En tout cas,
merci à vous.
C'était cool. Bien cool. On a appris tellement de trucs. Ouais. On a écouté plein de morceaux aussi. Ouais. Ça, c'était bien stylé.
C'était chouette. Ouais.
Tiens, on a peut-être abordé un dixième du bail. Ouais. Mais c'est comme toujours.
Non, par contre, là, évidemment, la tradition dans DLT, tu le sais, puisque tu es un auditeur.
C'est la Rocco, bien sûr. Je vous laisse commencer.
C'est vrai, moi j'en ai une. Daz, tu sais ou pas encore toi?
Ouais, moi j'en ai une, bien sûr.
C'est vrai, tu veux commencer? J'y vais, on fait quoi?
Bah, comme tu veux, vas-y,
commence. Ouais, j'y vais, allez. Ouais. Bah alors attends, j'ai un truc à montrer à la caméra.
Ah! Ah, c'est pas
parce
une Rocco.
C'est une Rocco, non. C'est une Rocco physique. Okay. Exactement.
Ok.
C'est une Rocco aussi en forme de. À la fois de SO et de mea culpa, de pardon. Puisque en fait j'ai reçu, je suis allé dans mon ancienne colocation il y a pas très longtemps, je raconte ma vie rapidos, j'étais pas allé depuis longtemps et en fait j'avais plein de courriers.
Mmh.
Et parmi les courriers il y a ça.
Parce que Salman en fait il se met bien, il oublie de le dire, c'est toujours lui qui capte tous les trucs promo et tout.
Non, alors en plus c'est différent, ouais. C'est pas lié à DLT.
Nous on reçoit des recommandés d'huissier, toi c'est tu reçois ça toi.
Non, c'est l'album de Loris Stills. Et Loris, en fait, je le connais pas extrêmement. Il est pas venu dans DLT. J'avais été invité dans une émission. Il était invité lui aussi.
Okay.
Et Loris, c'est un bassiste. Et c'est un bassiste de grand talent. Il est belge. Mm-hmm. C'est pas une resta et ça vaut le coup d'aller le suivre parce qu'il est vraiment très très fort, excellent musicien. Et ça, c'est le packaging de son dernier album. Et en vrai, ça tue. Le packaging est trop bien.
C'est ouf.
Tu vois, donc il y a la petite pochette comme ça, un peu avec les jolies couleurs et tout. Et ensuite, donc c'est un album qui s'appelle Mystic Bayou de Loris. Il y a le CD Il y a tout un livret. En fait, ils ont fait un délire où l'album est presque une bande-son d'une histoire. Il y a quasiment un roman dedans. Ils ont bossé avec un mec. Oh, c'est cool. Tu lis le truc incroyable. En même temps que tu écoutes la musique. On dit à quel moment écouter la musique, etc. Montre le Daz, voilà. Il met aussi en avant vachement les musiciens avec qui il a bossé. Il y a des trucs en 3D, donc il y a les lunettes fournies, le CD en plus. Ils sont fait chier, putain.
Ah ouais, c'est
Bien bossé. En plus, ça tue. Donc bravo, Loris.
Mais genre, dans le commerce, si tu l'achètes, il arrive comme ça, le truc. Avec
alors, j'imagine qu'on peut le trouver comme ça, bien sûr, en packaging. Après, je pense pas que ça soit extrêmement distribué et tout, mais au pire, vous contactez Loris. Il est sur Insta et tout, Loris Stills, si ça vous intéresse. L'album est évidemment aussi sur Spotify. Et si ça vous plaît, vous pouvez choper, à mon avis. Il doit y avoir un moyen de s'arranger avec lui pour avoir tout le beau packaging, là.
C'est joli. Et du coup, on va s'écouter.
Évidemment, on va s'écouter un extrait de Mystic Bayou de Loris Stills. Et désolé encore une fois, le pauvre, il me l'a envoyé ça, je pense, il y a quasiment un an. Et je l'ai gosse depuis. En fait, il sait pas, je ne l'ai pas remercié alors qu'il m'a envoyé ça. Donc voilà, ma manière de te remercier aussi, Loris.
Et voici Loris Stills.
Et je mets le tout premier morceau qui s'appelle Lyle's Fall. Ils sont dans un délire jazz, funk, fusion. Cool. Il a aussi l'album précédent qui tue, Loris, où il est beaucoup plus funk, pas disco, mais t'es plus entraînant, dansant et tout. Ça tue aussi. Bref, il est trop fort. Il accompagne pas mal d'artistes aussi en studio et sur scène. Il enseigne aussi. Bref. Loris Stills, voilà.
Bravo. Bravo, Loris. comment passer après ça?
C'est ça.
On va rester. Moi, je suis toujours la caution vraie musique dans ce podcast. Non, je vais passer un morceau que j'aime beaucoup, d'un artiste que j'aime beaucoup. L'artiste, c'est Schoolboy Q, ouais. Rappeur de Los Angeles, Hoover Crypt, donc de Hoover Street, qui est signé chez Tidy avec Kendrick Lamar, Absol, Isaiah Rashad et compagnie. Et le morceau s'appelle Lost Times. C'est intéressant parce que donc c'est sur l'album Blue Lips, son dernier album, et Lost Times, le clip est sorti il y a pas longtemps, et il a fait un truc comme Cartoons and Serials de Kendrick Lamar, c'est-à-dire que c'est un clip qui mixe des reprises de dessins animés de la Warner, Hanna-Barbera, Disney, mais tous les personnages sont évidemment noirs, et le lip-sync est fait sur la musique. Donc c'est rien que le clip de Lost Times, en fait, regardez-le avant que Disney le fasse couper, quoi, parce que clairement, il y a du Mickey et de la Blanche-Neige dedans.
Mais je crois que j'ai vu.
Ça rappelle l'épisode d'Atlanta.
Ouais, aussi. Ouais, complètement.
Série incroyable.
Incroyable, cette série.
Absolument.
Et pour la petite histoire, ce morceau-là, moi, Lost Times, je l'ai écouté il y a très longtemps parce que un mec que je connais, j'ai jamais compris son taf, mais il est dans des groupes WhatsApp avec des Dr. Dre et des Kanye West et il m'a envoyé les sessions. Okay. Donc, j'ai pu équaliser la basse, enlever la voix, me faire les instrus et tout.
Un petit bootlegger, toi.
Ouais, franchement, j'étais content parce que je me disais, s'il me l'a filé, c'est que ça sortira jamais. Ah. Et donc, quand j'ai vu l'album sortir, genre 2 ans après, avec le morceau, j'ai fait, ah, putain, cool.
Et Detox, tu l'as eu ou pas?
Tu sais que, alors, Detox, non. Par contre, il y a un album complet finalisé de Dre et Kanye West. Et du coup, je fais du lobbying intense pour...
C'est pas c'est pas un mythe.
Ah non, il existe vraiment, il est masterisé et tout. C'est juste qu'ils ont jamais réussi à se mettre d'accord au niveau des maisons de disques. Je sais pas si je devrais dire ça, mais en tout cas, voilà. L'album est fait, mais il sortira pas. Voilà. Ouais, mais genre, les deux artistes sont ok pour dire, il sortira pas. juste pour des problèmes de chair et voilà.
Après, je sais pas quand tu t'endrais si t'as envie d'être encore associé à Kanye aujourd'hui.
Alors oui, mais c'était avant, c'était avant que Kanye West soit radioactif. Mais oui. En tout cas, là, ce Lost Times est incroyable.
Voilà, allez, Schoolboy Q et Josie.
Et Josie, bien sûr.
Ça va être un peu drumless.
Non. Non, au contraire, il est. Alors oui. Mais pas comme ça. Non, mais pas comme ça. Ça, c'est juste l'intro.
I feel blessed, had the bread stash. I woke up feeling saucy, blew the whole bag. Get your hood max. Two kids, same baby mama, all black.
Alchemist à la prod, bien sûr.
You know me though, alcoholic.
Alchemist qui regarde les stories, mec.
Slid through that many nights, I never met many like her. Say she like girls and won't mind. Fuck on her friends, I might not. Niggas stand clear when I drop. Niggas gon' learn when I talk. You see they move when I march. God, credit, bless, love, the realest. My thugs, my niggas, drugs and killers. How you hate me with a smile, my nigga? You foul, my nigga. You turn love into a cow, my nigga. Hey, pop, I did it. The block, I slid it. You hatin', I figured. No sleep on my pillow. You broken a bum. The worst of the scum was dapping your son. He know how I won. You see how I come. You see how I'm clutch. The only of us. Slid through that many nights. I never met many like I. You mentioned you and they lie. I know I'm great in their eyes. The first Hoover that fly.
Mais bon morceau.
Bon, c'est carrément drumless, mon gars.
C'est totalement drumless, mais en fait, j'étais.
Ouais,
non, mais
clair,
en fait,
pas du tout.
Pas pareil. Tiens, le sample est moins évident, mais oui, en fait, c'est Alchemist à la prod, donc c'est 100% drumless. Mais ouais, franchement, Schoolboy Q.
Ouais, je parle avec lui sur Instagram des fois. Putain, on avait ressorti un bout d'interview sur Jams, là, ma page Instagram. Mec, il mate mes stories régulièrement et tout ça.
Ouais. On la mettra dans la description YouTube, ouais. À la page Instagram. Tu mets plein d'interviews que t'avais données.
Mais alors, c'est le musicien ou le journaliste, là, du coup?
Ah, c'est le journaliste. Hein, bah oui, évidemment. Ouais, non. Bref.
Est-ce que t'as trouvé ta reco?
Mais non, j'essaie de gagner du temps.
Ah non, mais oui, mais tu parles en même temps, c'est difficile de réfléchir.
Free Nationals, tu vois, le band d'Anderson .Paak.
Ouais, ouais.
Free Nationals avec Chronix. Eh, il est...
Eternal Light.
Il est G-Funk et Rastafari. Ah bah, c'est pour toi. Je te le dédicace, mon pote. Là, c'est ouais, c'est le band d'Anderson. T'as juste une ligne. Et t'es boîte sa grand-mère, la ligne. T'as envie de conduire comme à ta voiture.
Allez, c'est parti.
Ah bah oui.
Évidemment, oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Good vibration, yeah. That's the positive vibes and we creating, yeah. The sounds that make you feel right, we keep it blazing, yeah. Forever shining this light, we keep it blazing, yeah. Boy, forever shining this light.
Je suis drogué.
Hey, thank the Lord, my cup is full and running over. All who never like, we are gonna love, we know. Baby girl just text me, say she coming home. And when she reach, it want me fit, turn off the phone. Turn the lights down low, turn up the stereo, yeah. Alton Ellis, Gregory Isaac, Dennis Brown. Have you ever been in love? Now bad vibes can't stop this good vibration, yeah. That's the positive vibes we keep creating.
C'est smooth.
Ouais, c'est très.
Ah, c'est ça,
ouais.
Le mot. C'est dans mes playlists. Là, déjà.
Ouais.
Bien sûr.
Bah,
c'est même un peu affriol, un peu affriolant, tu vois.
Ouais.
Ça te met dans le bon mood. Tu vois
que t'es dans le reggae.
Ah bah ouais, mais en fait c'est ça.
Oh. Je l'avais interviewé la première fois qu'il était venu à Paris. Data Nullis, on gardait ça en tournée promo. J'ai interviewé Boulevard Diderot dans le froid. C'était Jamaïcain qui voyait la première fois de sa vie l'hiver.
Ouais.
Regardez les pigeons comme ça. Ouais, on en a fait 2-3 comme ça. Kofi, premier passage, et un an après Grammy.
Il est inarrêtable.
Ouais,
Digressman. Digressman, il l'a dit lui-même.
Débranchez le micro.
Coupez le micro. Flav, stop to.
Pardon.
Bon, merci beaucoup, Jaël.
C'était ultra cool, bien sûr.
Un grand merci, évidemment, à la bouclette. Sam, Flav, Iris. Thomas aussi.
Ouais.
Mine de rien, qui a participé.
Pourquoi oublier Thomas?
Bah oui, attends, on l'ajoute
Iris
aussi.
Iris est parti, donc
oui,
voilà.
Mais c'est pas grave, Sam aussi est parti.
Mais... C'est vrai. Mais on les remercie.
Non, mais
quand
on reste tout le monde. Merci aussi
François.
À François, bien entendu, François, pour le montage. Et puis Thomas, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter chez Thomas des choses?
Ouais.
Ouais. Ça, c'est une vraie réponse, pas comme Céron.
Non.
C'est l'un des rares qui a dit. Ah non, c'est pas grave. Hein,
mais... Est-ce qu'il achète encore des trucs? C'est ça la question.
Ouais.
Bon, en tout cas, Thomas, le meilleur podcast du monde, le meilleur magasin du monde aussi.
Évidemment.
Bien sûr.
Le meilleur village du monde.
Et Treppendorf, absolument.
Bien sûr.
Treppendorf, c'est le village où il y a Thomas.
En Allemagne.
C'est le village, en fait, natal du fondateur. Mais il y a genre 100 habitants, tu vois.
T'es pas parti faire le pèlerinage.
J'y suis allé, bien sûr, plusieurs fois.
Ils ont fait du contenu, les mecs.
J'y retourne dans pas longtemps, d'ailleurs.
Incroyable.
La citoyenneté honorifique de
J'espère bien.
Non, tu dois embrasser la bague une fois de temps en temps, quand même.
Tu parles, c'est vraiment un trou paumé. Il y a que Thomas, quoi.
Je pense que Treppendorf, en allemand, ça veut dire trou paumé.
C'est possible. Par contre, à côté, il y a une petite ville qui s'appelle Bamberg, et qui est une ville classée. Et la ville est magnifique parce que c'est l'une des villes, il n'y en a pas tant que ça en Allemagne, qui ont complètement échappé au bombardement. Et donc en fait, ils ont gardé vraiment le centre historique, etc. C'est hyper beau. Et je crois que c'est un lieu assez, touristique assez réputé en Allemagne, tu vois. Et donc c'est quand même à côté. Donc ça vaut le coup d'aller chez Thomann. On va voir le magasin qui est immense. Il y a plein d'instruments.
Les hangars.
Non mais en vrai, c'est
il parle de moi, il est parti en Stéphane Merde.
Non mais en vrai, c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Et après, on fait un petit tour à Bamberg et voilà, on est bien. Bon, on se retrouve dans 15 jours. Ce sera un nouveau sujet, un nouvel invité.
Oui.
Et ce sera bien.
Comme d'habitude.